Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de Silver Economy Expo que je vais avoir le plaisir d'animer. Conférence qui va nous donner l'occasion de faire un certain nombre de beaux voyages, puisqu'on va faire tout le tour de la planète. On va aller au Japon, on va aller aux États-Unis, on va aller en Australie, on va aller dans les pays scandinaves, on va aller un peu partout également en Europe, pour voir ce qui se fait ailleurs qu'en France en matière de Silver Economy, en matière d'économie tournée vers les seniors, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors, simplement quelques mots en guise d'introduction de cette conférence. Bon, moi je fais partie de ces seniors, hein, vous l'avez remarqué, mesdames et messieurs, je suis quelqu'un qui a écrit même sur les centenaires, mais rassurez-vous, aujourd'hui on ne parlera pas des centenaires, et je suis, à titre personnel, journaliste pour un magazine qui s'appelle Pleine Vie, dont je fais les dossiers santé. Voilà, je vais vous présenter tout de suite nos intervenants. Avant, je voudrais vous signaler que si vous avez manqué le début du film, comme on dit, vous aurez l'occasion de vous rattraper, puisque toutes ces conférences sont enregistrées en audio, et qu'elles seront disponibles sur le site de Silver Economy Expo d'ici quelques semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à retourner sur le site pour voir un petit peu ce qui s'y passe, et vous aurez comme ça tout le résumé, en tout cas tout l'enregistrement même de ces conférences. Alors, je vais vous présenter nos différents invités, nos intervenants, par ordre de présence à la tribune. Hein, y a pas, madame, vous permettez, on commence par un homme, ça va être plus facile pour moi, hein, mais j'aurais pu commencer par vous, madame Gnassia, mais vous êtes au milieu, vous êtes très bien entouré. Monsieur Philippe Mougin, directeur des affaires publiques et du développement régional Bayer Healthcare. Monsieur Mougin a rejoint Bayer Healthcare en 2010 pour adapter l'organisation du laboratoire aux nouveaux enjeux du système de santé depuis 4 ans. Lui et ses équipes travaillent en lien étroit avec les autorités de santé et les professionnels à l'analyse des parcours de santé, à l'identification des zones de rupture et à la mise en œuvre d'amélioration de ces zones. Il nous en parlera. Voilà. En deuxième position sur la table, bon, ben, je crois que presque tout le monde le connaît, c'est Jean-Paul Tréguer, qui est cofondateur de Senior Agency et de Planète FR. Il a fondé Jean-Paul Tréguer Senior Agency en 1995. Autrement dit, c'est un pionnier. Hein. C'est un pionnier, vous vous rendez compte, hein. Voilà. Non, il dit un dinosaure, non, pas un dinosaure quand même. C'est un pionnier. Donc, agent spécialiste du marketing à destination des plus de 50 ans. Il est également PDG fondateur du groupe de communication Low Cost 360. Groupe 100% indépendant, 90 personnes présentes dans 8 pays, avec des agences comme TV Low Cost, Low Cost Media, Digi Low Cost, etc., etc. Vous gérez la com de plus de 200 marques de tout secteur. Voilà, puis vous avez publié des tas de choses. Si je commence à tout citer, on va y passer la journée. Donc on va éviter si vous le voulez bien. Monsieur Caron, Gérard Caron, cofondateur d'une autre agence, Carré Noir, consultant design en entreprise, publicitaire de formation. Vous avez cofondé cette première agence de design marketing Carré Noir que vous avez développée aux États-Unis, au Japon et en Europe. Aujourd'hui, vous êtes conseiller en stratégie de marque auprès de nombreuses entreprises et vous êtes l'éditeur du premier site de design qui s'appelle admirable.design.com. Admirable.design.com. C'est bien ça ? Pas d'erreur. Madame Gnassia, on en vient enfin à vous. Martine Gnassia, directrice planning stratégique et communication à l'IFOP. Alors, vous avez plus de 20 ans d'expérience, vous, madame, en agence conseil en communication publicitaire dans de grandes marques, grands groupes, au service de très grandes marques, luxe, médias, grande consommation. Vous, depuis 6 ans également au sein de l'IFOP, vous vous chargez des missions d'accompagnement prospectif des marques. Et vous avez créé en 2014 Incapsule by IFOP, une entité dédiée au management de l'inspiration. Et lancé en 2014, donc cette année, IFOP Trends 50+, le premier cahier de tendance marketing France, États-Unis, Japon, qui donne une vision opérationnelle des critères clés à respecter pour développer des actions marketing réussies auprès des seniors, donc auprès des plus de 50 ans. À côté de vous, madame, un monsieur qui vient du froid, n'est-ce pas, puisque Jérôme Arnaud est président d'Oro et de Silver Valley, il nous vient de Scandinavie, donc diplômé de Centrale Paris et Institut des hautes études en sécurité intérieure. Mais en fait, vous avez rejoint Doro en 2000 en qualité de directeur général, avant de devenir PDG du groupe en 2007, fonction que vous occupez à ce jour. Et depuis décembre 2012, vous êtes également à la tête du cluster Soli Age. Voilà, on a presque fini notre tour d'horizon avec Michael Carré. cofondateur de Medialis, solutions informatiques et technologies pour l'autonomie, ingénieur de Centrale Paris et biologiste. Donc vous êtes un expert reconnu des technologies pour l'autonomie depuis plus de 10 ans. Vous êtes enseignant, vous administrez des structures de référence comme la Société française des technologies pour l'autonomie et les gérontechnologies. Et vous êtes membre fondateur de ce cluster Silver Valley dont je viens de parler. Et vous aussi, auteur de nombreux ouvrages. Et enfin, celui avec lequel nous allons ouvrir, mesdames et messieurs, cette réunion, comme il l'a fait tout à l'heure à une autre conférence à 9h du matin, donc il est bien rodé, c'est Franck Lehuédé. Il est chef de projet senior au Crédoc, donc chef de projet depuis 2009. Il est chargé de manager les études marketing et de communication au sein de son département communication du Crédoc. Il analyse l'impact du vieillissement de la population sur les attitudes et les comportements des consommateurs et ses conséquences sur les stratégies des entreprises. Voilà, sans plus attendre, monsieur Lehuédé, on va faire une translation. Je vais aller à votre place, vous allez venir à la mienne et vous allez nous planter le décor en nous donnant quelques chiffres clés sur la démographie et le vieillissement en France, mais aussi en Europe et dans le monde. À vous la parole.
Bien, ben merci de m'avoir invité à participer à cette conférence inaugurale. Je vais avoir comme objectif de vous présenter quelques données démographiques pour vous montrer que l'évolution française s'inscrit dans des tendances plus lourdes au niveau mondial et présenter notamment des éléments démographiques sur les pays dont les expériences vont vous être présentées par la suite. Alors, tout de suite, voyez que au niveau mondial, tous pays confondus, on a en effet une croissance de la population âgée de plus de 65 ans, puisque là, on était en 1970 autour de 5% dans la population mondiale qui avait plus de 65 ans. On arrive en 2050 à 16% de la population. On est autour de 11% aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a une croissance qui va s'accélérer à partir de 2015-2020, donc dans la population mondiale. Croissance qui se fait au détriment des plus jeunes, c'est parmi les moins de 25 ans qu'on a la part de population qui va se réduire dans la population mondiale. Donc, parlons population mondiale, c'est intéressant, mais essayons de développer pays par pays. Et donc, lorsqu'on regarde l'évolution monde des 65 ans et plus, ben, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de pays qui sont au-dessus. Et ces pays qui sont au-dessus, ce sont les pays développés. Donc, c'est intéressant en termes d'opportunités pour les entreprises, parce que c'est là qu'il y a le pouvoir d'achat le plus important, et donc des possibilités de développer des offres de produits et de services qui seront accueillies et achetées par les consommateurs. Alors, toutefois, il y a différentes situations existantes. On pourrait dire qu'il y a trois situations existantes. La première, c'est celle du Japon. Là, on est sur un pays qui a fortement vieilli d'ores et déjà. On a une natalité qui est très très faible, donc du coup, un vieillissement de la population qui est très important. Et vous voyez que les plus de 65 ans au Japon, bah, c'est plus de 35% de la population aujourd'hui. Donc on est sur une population qui a très très fortement vieilli et on est très très en avance, si tant est que les pays occidentaux suivent le même chemin que le Japon, très très en avance par rapport au reste des pays développés. La France se trouve à une situation intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est dans la moyenne des pays développés, mais on voit que, en effet, elle est un peu au-dessus de la Norvège, de l'Amérique du Nord, de l'Australie. Alors, la situation française s'explique, vous le savez tous, par le fait qu'on a eu, après la guerre, une très forte croissance de la population des baby-boomers qui, bah, en avançant en âge, sont devenus papy-boomers, sont peut-être devenus maintenant silver boomer. Donc on a cette population importante qui est arrivée aujourd'hui à l'âge de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, l'âge de la retraite, et qui va donc continuer d'avancer en âge. Et là, on a une très très forte proportion de population. La situation de l'Amérique du Nord et de l'Australie est un peu différente parce qu'on a certes un vieillissement des populations sur le sol, mais on a une immigration très forte qui fait que du coup, vous avez dans l'immigration une possibilité d'arrivée de populations jeunes, qui fait que par rapport à la France, la situation de l'Amérique du Nord ou de l'Australie est plus intéressante, je dirais, en termes de jeunes et un peu moins développée en termes de plus âgés. Mais voyez qu'on est de toute façon sur des croissances qui se mettent en place pour les plus de 65 ans à partir des années 2010-2015, qui vont être très fortes jusqu'aux années 2030, et puis ensuite on va avoir plutôt une stabilité de ces croissances des plus de 65 ans. Donc, si on regarde au niveau d'une carte, hein, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe de façon géographique, ben on s'aperçoit que là où les croissances sont les plus fortes et où les parts des plus de 65 ans sont les plus fortes, c'est en Europe et au Japon. C'est là qu'on a les parts les plus importantes. Ensuite viennent le reste des pays de l'hémisphère nord, avec notamment l'Amérique du Nord et la Russie, qui sont donc également des pays qui ont un taux de plus de 65 ans important. Et puis on doit rajouter aussi l'Océanie dans ce domaine-là. Et puis ensuite, bien sûr, quand on va sur l'hémisphère sud, on a des populations qui sont nettement plus jeunes, hein. La transition démographique est en train de se faire, mais on a eu beaucoup d'arrivées de jeunes et d'enfants sur les 20 ou 30 dernières années, et donc le vieillissement se fera, mais il se fera plus tardivement dans ces populations. Voilà. Dernier élément sur cette présentation, parler des plus de 65 ans, ou comme on l'a fait tout à l'heure sur la conférence précédente, des plus de 50 ans, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait on parle de gens qui appartiennent à des générations différentes et qui tout au long de leur vie se sont considérés comme étant de générations différentes. Vous n'imaginez pas qu'un jeune à 50 ans puisse penser qu'il est dans la même génération que son père qu'en a 70, qui lui-même ne se pense pas dans la même génération que son père à lui, qui en a 90. Donc on a au moins trois générations parmi ces populations. Donc on avait fait un travail pour le ministère de l'économie qui nous permettait, à travers des évolutions des modes de vie et non pas à travers des âges, de définir quels étaient les moments clés de passage d'une catégorie à une autre. Et on avait créé ces quatre catégories qui sont les seniors actifs, du moment où les enfants sont partis de la maison, où Tanguy nous a quittés, pour aller jusqu'au moment où on arrête son activité. On avait à peu près 36% de la population qui était, de la population des seniors qui était dans cette catégorie-là. Ensuite, on avait les jeunes retraités, c'est-à-dire les gens qui ont arrêté leur activité et qui donc sont complètement actifs, sont en très bonne santé, jusqu'au moment où justement les premiers problèmes de déplacement vont apparaître, avec l'arrêt de la conduite automobile, où il va y avoir une moindre activité sociale. Donc là, on a 26% des seniors qui sont dans cette catégorie-là en France. Quand on regarde au niveau de la catégorie suivante, là on est sur des gens qui sont âgés mais sont toujours en couple, mais subissent les conséquences du vieillissement, donc voir moins, d'avoir plus de difficultés à se déplacer, avoir déjà quelques problèmes à se repérer, à réfléchir longuement, à garder une capacité de réflexion assez longue. Donc là, on a 18% de la population. Cette catégorie s'arrête au moment du veuvage, et là, on rentre dans la dernière catégorie, qui est la catégorie des retraités âgés seuls, dans laquelle va apparaître la dépendance. On n'est pas obligatoirement dépendant à ce moment-là, mais en tout cas, on est fragilisé. Le simple fait d'être seul fragilise, et là on a 20% de la population. Alors j'ai essayé de garder ces catégories-là et de les faire sur les pays qui nous intéressent, en reprenant en fait donc ces différentes catégories. Donc si je regarde ce qui se passe au global dans les pays développés, vous avez 37% de gens qui se retrouvent avant la retraite à peu près. Vous en avez 31% qui vont se retrouver dans une situation de retraités actifs. Puis ensuite 20% qui vont se retrouver dans une situation où ils vont être en couple encore, mais déjà avec des conséquences du vieillissement, et 12% qui se retrouvent vraiment dans une situation de veuvage et de chemin vers la dépendance. face à ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit quand même que le Japon, qui a une part de population plus âgée plus importante, du coup se retrouve nettement moins sur les plus jeunes tranches d'âge et nettement plus sur les plus âgés. Donc là, on a 24% de gens qui se retrouvent entre 70 et 79 ans, 17% de gens qui se retrouvent au-dessus de 80 ans. Donc on voit qu'on a plus de 4 sur 10 qui se retrouvent dans ces situations de vieillissement réellement, alors que dans le reste des pays qui nous intéressent, on est sur des proportions qui sont plutôt de 3 sur 10. L'autre élément qui me semble intéressant, c'est que en Amérique du Nord et en Australie, en Océanie, on a plutôt là une part importante de jeunes seniors, donc de seniors qui sont des retraités actifs. Donc obligatoirement, si on fait ces deux grandes catégories, on voit bien qu'en effet l'offre de produits et la réponse que la société va amener pour ces catégories d'âge ne va pas être la même parce qu'on n'est pas sur les mêmes catégories de seniors. Donc voilà très succinctement ce qu'on pouvait dire et pour préparer les interventions brillantes de mes co-intervenants sur cette table ronde. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Lehédé. Alors, puisqu'effectivement, on le voit sur votre graphique, les plus de 70 ans sont les plus nombreux au Japon, on va aller faire tout de suite un voyage au Japon. On va commencer par l'Extrême-Orient, l'Asie, avec Gérard Caron, qui est un très très grand spécialiste du Japon. Il n'est pas venu ce matin de Tokyo, mais il connaît bien le pays en tout cas. Gérard Caron, agence Carré Noir, qui va nous parler de ce qui se passe au Japon. Il connaît bien notamment les commerces, les centres commerciaux. Il va nous dire un peu ce qu'il faut savoir sur le pays du soleil levant.
Merci. Alors, nous allons parler du Japon sous l'angle de la distribution, puisque là, c'est la concrétisation entre toutes les offres, les possibilités et les services commerciaux et le public en question. Cette distribution, j'aurais pu en parler aussi sans aller si loin, en Espagne, en Allemagne, parce qu'il y a aussi déjà des distributeurs qui se sont intéressés à cette cible-là, mais on a vu que le Japon avait une avance considérable dans ce domaine, si on peut parler d'avance bien sûr, et donc c'était intéressant d'en parler. En particulier, le groupe Aeon, A-E-O-N, il y a un A devant, qui est, on va dire, l'espèce de carrefour japonais, donc vous voyez les chiffres d'affaires en bas, c'est considérable, c'est en milliards d'euros, et qui possède de nombreux hypermarchés, malls, etc. Alors ce grand groupe a dédié un nouveau centre, particulièrement à cette cible de seniors. On va voir comment il s'y prend, parce que vous allez voir, c'est par touche. C'est ça qui est tout à fait intéressant. D'abord, c'est situé dans un quartier en bordure de Tokyo, un quartier moderne, sans grand intérêt, il faut dire, ça pourrait être un peu n'importe où. Et là, il y a un centre qui a été créé, d'une architecture aussi sans grand intérêt, qui pourrait également être partout. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce distributeur qualifie ses clients. Il les appelle Jiji, en japonais, qui a un double sens, puisque ça veut dire aussi papy en termes familiers. Donc, GG pour nous français, Grand Generation. Voilà, et pas senior, et pas... etc. Donc on valorise cette cible-là. Vous êtes de la grande génération. Voyez, là, c'est une photo que j'ai faite pour vous, mais il y avait un miroir devant, donc il y a des reflets. Voyez la partie rouge en haut à gauche pour vous, qui est un peu masquée par le reflet. Donc c'est toute la surface qui est consacrée aux seniors, sachant que la grande partie droite... À droite, c'est un parking. Et puis entre les deux, il y a un jardin. Il y a la police, un peu, vous voyez aussi la police, parce qu'il faut rassurer cette clientèle-là qui a besoin de sécurité. On se demande ce que peut faire la police au Japon, mais enfin bref. Et puis, regardez aussi que sous la zone rouge, vous avez PET, donc un énorme centre dédié aux animaux domestiques. Mais on va y venir. Donc vous voyez l'extérieur, rien à dire, c'est plutôt moche. Voilà. Et l'intérieur, rien à dire non plus, parce qu'au fond, ça ressemble à tous les centres commerciaux du monde. Ça pourrait être là aussi, aux États-Unis, en France, n'importe où. Mais c'est déjà un signe. C'est-à-dire que ce centre, il est comme les autres, bien qu'il soit dédié essentiellement, mais pas uniquement, mais essentiellement à cette grande génération. Alors donc, les escalators sont un peu plus lents. On y voit beaucoup de moquettes sur des zones importantes, ou du parquet. Et de toute façon, remarquez, énormément de zones de repos. Alors, lorsque j'ai visité ce centre il y a quelques mois, j'étais frappé parce qu'il y avait très peu de seniors qui étaient assis sur les fauteuils. Et beaucoup de jeunes mamans, de couples, de gens qui regardaient le SMS, etc. Et je me dis, mais après tout, ça pourrait être valable pour tout le monde. Ce qui est valable pour les seniors, pourquoi ce n'est pas valable pour les autres ? Il y a même une œuvre d'art, parce que c'est une œuvre d'art qui est sur le mur, hein, je vous préfère vous prévenir, par un grand artiste qui est là. C'est la montagne à la rosée ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas très beau, je peux le dire, mais bref, c'est comme ça. Et devant, vous avez des fauteuils qui sont pas très beaux non plus, mais c'est pour dire comment on met l'accent sur le repos, sur le confort des visiteurs. J'allais dire, mine de rien. Alors on garde sa voiture, on est senior, et puis on choisit un spot où il y a un numéro clairement indiqué. Vous, sur cette petite machine qui est à côté, vous tapez le numéro du spot, et vous prenez le ticket dans votre poche. Donc vous savez exactement où est votre voiture, quel étage, parce que le ticket comporte toutes ces informations complémentaires. Il n'y a pas besoin d'être senior non plus pour avoir besoin de ce genre de ticket. Mais enfin bref, ça existe. Alors quand on entre dans le centre, il y a l'alimentaire bien sûr est prévu. Beaucoup de doses individuelles. Beaucoup de doses individuelles, mais plutôt que de mettre dose spéciale, moins de sel, moins de sucre, moins de gras, etc., on appelle ça avec des noms assez gentils, poétiques, toujours. Là, c'est les plats pour dames. J'ai observé aussi que tout le monde en achetait, mais enfin, une façon élégante de dire ce sont des plats pour ne pas grossir, donc des plats un peu spéciaux, avec des petites doses. Les gourmandises, même chose, on ne dit pas également que c'est des gourmandises pour les seniors, on dit que c'est des gourmandises raisonnables, hein, des doses raisonnables. Donc, il n'y a pas d'âge pour être raisonnable. Hein, on est bien d'accord. Les surgelés, c'est assez peu au Japon. Il n'y a pas de picard au Japon. Donc, il commence à s'installer, mais c'est vraiment difficile. Là, le rayon est très développé. Surtout avec des doses et des plats préparés, Jean-Floré Michon, etc., surgelés. Et puis, c'est une population qui a le temps. Ce qui est rare au Japon, c'est vrai luxe le temps au Japon, qui a de l'argent et donc qui aime découvrir, qui se fait plaisir. Le rayon vin est donc très important là-bas aussi. Le problème, c'est que ces gens ne connaissent rien au vin, encore moins que les Français. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une surface IBM qui est là, vous mettez sur les spots ronds votre bouteille, et sur les petits carrés à côté, les petits cartouches que vous voyez là, il y a toutes les indications du vin, son origine, et avec quoi ça a son goût, avec quoi ça marche, etc. Donc voilà, ça c'est une aide, mais ça pourrait être valable pour tout le monde encore, ça. Alors, un faute courte, ça c'est courte, ça non plus, c'est pas original, il y en a dans tous les grands centres, si ce n'est qu'ici, observez bien, ce sont pas des chaises, c'est pas des tabourets, c'est pas des bancs, c'est des fauteuils. Le reste, c'est pareil. Alors la mode, évidemment, elle est plus particulièrement axée sur cette mode-là, très confortable, facile à porter. Mais là aussi, ce qui est amusant, c'est que l'accroche, c'est « soyez cool ». C'est donc sur un ton, vous êtes dans la grande génération, mais soyez cool, profitez du temps que vous avez. Des chapeaux, les japonaises ont l'art de porter des petits chapeaux plus ou moins horribles, mais bon, il y en a quand même, il y a un grand choix là. Et ça, c'est très intéressant, c'est parce qu'au Japon, on achète tout fait et on jette. Mais ici, vous avez un stand de mercerie, une boutique, parce que ce sont des boutiques tout ça, avec des marques. Une boutique, un vrai centre commercial, une boutique qui vend des fils, des petits bijoux à faire soi-même, etc. Parce que les mamies raccommodent les vêtements des petits-enfants, ont le temps, etc. ont réappris à coudre et à tricoter. Alors vous êtes dans une sorte de darty, j'ai oublié la marque, enfin une sorte de darty, et vous circulez entre les frigos, les cuisines, etc. Et puis d'un seul coup, vous tombez sur un stand de cannes. Alors de cannes, vous voyez, ou un peu plus loin, c'est des cannes en couleur, puis des cannes plus classiques, etc. Donc c'est pas réservé à un coin vieux, non, c'est parmi tout le reste. Et on continue aussi avec tous ces petits instruments paramédicaux, mais il y en a aussi ces darty d'ailleurs, mais qui sont là parmi tout le reste. Des petits sièges, quand on va à des manifestations, des spectacles, et ça, c'est dehors, en plein air, il y a des petits sièges pour s'asseoir à roulette. Bon, bien sûr, les stands de lunettes sont très développés, mais ça peut se concevoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la parfumerie cosmétique, parfumerie c'est un mot qui que les Japonais connaissent peu. Enfin, c'est pas un pays du nez là-bas, un pays de parfum. Mais un pays de protection de la peau, de soins de la peau, oui. Donc, il n'y a pas de rayonnage, vous vous installez, et puis une conseillère arrive et vous met des produits à tester, essayer, discuter avec vous, s'assied à côté de vous, etc. Donc, c'est vraiment vous êtes assisté, accompagné. Hein, accompagné plutôt qu'assisté. Je l'ai dit, ce sont des gens qui ont du temps, ce qui est très rare pour des Japonais, qui ont en moyenne 10 jours de congé par an. Donc, eux, ils peuvent voyager. Eux, ils voyagent. D'où un très grand, c'est le plus grand rayon de magasins de valises au Japon, pour des seniors. Mais vous passez devant, vous ne vous rendez pas compte que c'est pour les seniors. Hein. D'abord, il y a tout public dans ce magasin. Ça, c'est intéressant aussi. C'est au début du magasin, vous mettez votre carte client, carte de fidélité, sur la petite zone là, ou votre téléphone, et ça vous charge pour ça vous met un petit compteur à zéro. Et quand vous partez, vous remettez votre appareil ou votre carte dessus, et ça vous indique le nombre de pas que vous avez effectués. Et si vous avez effectué, c'est écrit en bas, 10 000 pas, ben vous avez 10 points. Je ne sais pas ce à quoi correspondait 10 points, mais enfin bon, vous avez 10 points. Voilà. Beaucoup de vélos, j'étais un peu surpris parce qu'il y a peu de vélos au Japon, mais on pédale. Hein. Alors voilà ce fameux magasin PET, ce fameux magasin pour les amis domestiques. Vous voyez à gauche, oui, gauche pour vous aussi, c'est que vous avez là des petits vêtements, des petits manteaux, des petites jupes, etc. Tout ça pour les petits chiens. Et puis, on va aller un petit peu plus loin. Là, vous avez une pâtisserie, boulangerie fraîche, avec des plats préparés frais aussi pour les petits chiens. Vous voyez aussi qu'il y a des pinces à gauche, parce qu'il n'est pas question de toucher ces aliments avec les doigts. Hein. Le chien n'en mangerait plus. Et puis plus loin, des croquettes, un choix incroyable de croquettes. Maintenant, vous trouvez que votre chien ne fait pas assez de sport, ben vous l'emmenez là. Je ne sais pas si lui, ça l'amuse, mais en tout cas, ça amuse l'animatrice. Hein. Et il fait faire un petit peu d'aquagym, etc. Et puis, bon, il va être fatigué, le pauvre petit toutou. Alors, on a une zone spa de repos, d'oxygénation, de coiffure, on le parfume aussi. Et il y a même des petites chambres pour qu'il se repose. Après tout ça, il peut être épuisé, on comprend. Voilà. Alors, regardez bien en haut à gauche, vous avez une maman, une mamie, je ne sais pas, qui est accompagnée et qui promène son chien dans une petite poussette. Et ça, ce sont devant, en premier plan, des petites poussettes pour promener son chien. Ben, faut dire que c'est souvent un compagnon, l'unique compagnon pour 20% en moyenne des gens qui sont seuls. Au Japon, c'est peut-être davantage. Alors maintenant, vous avez besoin de conseils parce que vous ne comprenez rien, l'assurance, la finance, la recette, tout ça. Bon, vous ne compliquez pas la vie, vous allez en un seul endroit, vous vous installez là, soit dans un fauteuil au comptoir, soit dans un fauteuil ici, là. Quelqu'un vient, vous écoute et vous conseille. Même chose que pour la cosmétique. Vous voyez, tout ça, c'est simple. Hein, mais moi je sais que je suis déjà dans la catégorie depuis longtemps, mais même, je rêverais de ça pour tout le monde. Alors maintenant, bon, on a des petits soucis de santé, de problèmes, etc. Eh bien, vous avez un magasin, parce que c'est dans le hall, tout ça. Ça ressemble à un magasin, ça s'appelle Dr. Land. Et en fait, derrière, vous avez 13 cliniques. Mais vous entrez, c'est comme un hall d'hôtel, avec des hôtesses, très chic, évidemment. Nous sommes au Japon. Vous pouvez lire dessous tout ce qui vous attend, toutes les spécialités qu'il y a. Je ne vais pas vous les lire, hein. Mais ça va à la chirurgie dentaire, aux intestins, médecine générale, etc. Hein. Bon, tout est là, en un seul bloc. Et c'est intégré dans le centre commercial. Il ne faut pas aller spécialement à la clinique. Non, vous allez au centre commercial. Hein. Et donc, vous avez là des salles d'attente, toujours avec beaucoup de confort, beaucoup de canapés, etc. Là, c'est chez le dentiste. Bon, au fond, ça ressemble à tous les dentistes. Et ici, c'est pour... pour s'entraîner lorsqu'on a eu des petits problèmes de muscles, etc. Vous voyez, donc, les jeunes assistants sont tous en uniforme. Ils attendent les clientes. Hein. Alors, voilà, j'en ai fini, parce que j'ai peu de temps. Mais tout cela, c'est l'idée du PDG de ce groupe, hein, qui est un monsieur de 63 ans, j'ai oublié son nom, mais ce monsieur a une philosophie très, très, très simple. Hein, il dit, les seniors, parce que bien sûr, là, on parle des seniors actifs ou mobiles, pas de ceux qui sont totalement dépendants, hein, mais c'est déjà une large population, mais les seniors, ce sont des gens comme les autres et qui souhaitent être traités comme les autres. Et même s'ils sont diminués, et surtout s'ils sont diminués, il faut les traiter comme les autres. Et c'est ce qu'il a essayé de faire dans ce centre commercial, qui marche d'ailleurs extrêmement bien. Voilà. Arigato.
Merci beaucoup, Monsieur Caron, de nous avoir donné envie d'aller faire un petit tour au Japon. Vous nous avez tellement donné envie, d'ailleurs, qu'on va y rester. Alors, donc, avec Martine Gnassien, on va parler un peu, elle va compléter le propos de Monsieur Caron sur le Japon. Et puis, elle nous parlera aussi des États-Unis après. Hein, voilà. Donc, on va être loin dans le monde, puis on va se rapprocher petit à petit de l'Europe, avec tout à l'heure la Scandinavie et l'Allemagne.
Bonjour à tous. Moi, je suis ravie aussi d'être parmi vous. Effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure par Franck, c'est une population extrêmement plurielle et effectivement complexe à capter. Elle a forcément des besoins différents selon ses étapes de vie. Et en fait, ce que nous, on a fait, parce qu'en fait, dans mon activité, on essaie de comprendre effectivement ces nouvelles tendances, en fait, et notamment le marché de la silver economy. Donc, pour bien comprendre ce marché de la silver economy, on est allé recueillir 200 cas de marques dans différents pays, donc en Europe, aux États-Unis, au Japon, qui ont cherché à s'adresser spécifiquement à la cible des 50 ans et plus. Donc on va avoir effectivement tous les types de population de cette génération-là. Et en fait, on a décelé, donc là je parle pour les personnes qui sont plutôt dans l'univers de l'entrepreneuriat, du marketing, et là on a décelé des drivers, enfin ce qu'on appelle des drivers, c'est-à-dire des clés, pour aller cibler ces populations et leur donner en tout cas des sources d'inspiration. Parce que là, on ne dit pas forcément ce qu'il faut faire sur le marché français, mais on va dire, voilà, il y a plein de façons de faire pour attraper cette cible-là. Donc moi, je vais essayer de vous donner quelques petits éclairages, notamment effectivement sur le Japon. On l'a vu, c'est un pays sur lequel effectivement la cible des seniors est extrêmement importante. Mais on avait trouvé un chiffre aussi, c'était que en 2030, les 50 ans et plus seront à peu près 54% de la population japonaise, donc ce qui est extrêmement important, donc ce qui fait qu'effectivement, forcément, le Japon s'intéresse de façon importante à cette cible-là. Donc, pour revenir deux secondes sur la raison pour laquelle aussi le Japon s'intéresse à cette cible-là, c'est qu'au Japon, il y a un taux de natalité qui est extrêmement faible, puisque c'est à peu près 1,5, donc c'est très en dessous de nos taux de natalité ici. Premier point. Deuxième point, il y a aussi un attachement, je dirais presque culturel, aux anciens. Et puis il y a surtout, pour des raisons totalement économiques, une très très faible immigration au Japon. C'est un pays où on n'aime pas trop la notion d'immigration. Donc on va faire ce que certains disent, ce que certains experts disent, on fait avec qui est là. Hein. Donc qui est là, c'est aussi les Japonais. Et on va voir qu'effectivement, quand on se balade au Japon, des personnes très âgés, se retrouver à travailler, même pas forcément des tâches difficiles, bien évidemment, mais se remettre au travail ou être en train de travailler à 70, 75 ans. Donc ce qui est intéressant, moi ce que j'ai eu envie de vous montrer, c'est quelques petites pistes qu'on a jugées, nous, assez efficaces pour parler, s'adresser à ces cibles-là. Donc au Japon, comme je viens de le dire à l'instant, l'objectif, c'est de maintenir cette population, je dirais, en état d'éveil, en état d'activité, en état de non-dépendance, en fait, la rendre la plus indépendante possible. Donc le Japon s'est engagé de façon importante à essayer de faire acquérir des gestes adaptés à l'âge de cette population. Et quand on dit acquérir des gestes adaptés à l'âge de cette population, ça veut dire, c'est vrai que quand on franchit certaines barrières d'âge, hein, 50 ans moins, puisqu'on est encore, dans une période d'activité, donc il n'y a pas trop d'acquisition, mais c'est un petit peu après que ça commence à bouger. Par exemple, des gestes de maquillage, effectivement, une peau vieillissante, on ne se maquille pas de la même façon. La sécurité, donc tous ces gestes de sécurité, tous ces gestes alimentaires, savoir choisir, savoir s'alimenter de façon intelligente, de ne pas faire forcément se surinvestir en calcium, etc. Donc au Japon, ils ont beaucoup, beaucoup investi ce territoire de éducation des gestes adaptés à l'âge pour effectivement maintenir cette population en état d'activité. Donc je vais prendre juste deux exemples qui sont assez intéressants. Donc il y a un exemple monté par un complexe résidentiel senior qui s'appelle Airwater au Japon. Et donc c'est un, en fait ce complexe résidentiel, c'est tout simplement une maison de retraite, on va dire. Donc elle est située en plein cœur du Japon. Et ils se sont dit, pour stimuler finalement les seniors à pratiquer une activité physique, eh bien on va intégrer dans ce complexe, effectivement, un casino. où les gens vont jouer à des jeux et ils vont être rétribués. Donc, en fonction de la rétribution, pour les faire avoir des activités physiques, excusez-moi. Ils ont intégré en fonction des pratiques de fitness qu'ils vont faire à l'intérieur de ce centre-là, ils vont avoir droit à des jetons qu'ils vont pouvoir consommer dans ce fameux casino et pouvoir jouer au casino. Les Japonais adorent jouer, donc ils ont joué sur ce levier-là pour les faire pratiquer du fitness. Tout comme, et l'exemple n'est pas montré ici, il y a des centres de fitness qui s'associent avec des karaokés pour faire des espèces de karaoké fitness pour permettre en fait aux personnes de continuer à pratiquer des activités physiques tout en s'amusant, tout en chantant, etc. Donc il y a ce levier-là qui a été utilisé par les Japonais. Autre exemple, là c'est l'association japonaise des auto-écoles. Eux, ils ont mis en place un énorme système qui va mêler effectivement cette notion de considération, c'est-à-dire, moi je considère que les seniors ont besoin d'être rééduqués, réactualiser leurs connaissances, acquérir des bons réflexes de conduite. Donc là, sur des journées entières, c'est des stages, donc là ils vont être amenés à conduire, donc avec à conduire avec un éducateur qui va effectivement corriger leurs réflexes. Ils vont avoir des cours qui vont leur apprendre effectivement comment on gère sa fatigue au volant, comment on utilise un airbag, etc., etc. Et puis, à la fin de la journée, ils reçoivent un diplôme. C'est vrai que les Japonais aiment bien avoir des espèces de médailles, de diplômes. Donc, ils ont joué sur ce levier-là, si bien que les personnes qui viennent dans ce genre de lieu se sentent considérées, sont enrichies en matière de connaissances. Et puis, ils se rendent compte par eux-mêmes, parce que c'est là où c'est très compliqué, quand on atteint des âges un peu plus de 65, 70 ans, de se dire, est-ce que je suis encore en état de conduire? Là, de façon assez simple, assez cool, comme c'était dit tout à l'heure, ils vont apprendre à conduire et acquérir ces nouveaux gestes, parce que c'est là où c'est compliqué, c'est de faire comprendre qu'il y a des choses qui bougent, et donc toute cette notion de ludicité, de le faire de façon assez simple et assez naturelle, et puis de façon un peu diplômante, est importante. Ce qui est important aussi de noter là-dedans, c'est que cette dimension de tout ce qui fait aussi le succès de ces opérations-là, c'est la notion de lien social. C'est aussi des moments pour les personnes de se retrouver entre eux, de vivre des moments forts, de garder finalement cette socialisation qui est importante quand on est senior et qu'on a peut-être peur de se retrouver désocialisé parce qu'on ne travaille plus ou parce que l'on peut être un petit peu isolé de sa propre famille. Donc ça, c'est un petit peu une petite pratique, enfin une grosse une pratique importante développée au Japon. Autre cas, c'est celui des États-Unis. Alors, les États-Unis, eux, effectivement, ils ont une situation un petit peu moins importante sur le poids des seniors, mais malgré tout, ils s'y préparent. Et ils s'y préparent en travaillant beaucoup avec les acteurs, avec les marques. Donc là, je vais donner deux exemples d'un laboratoire médical qui est Pfizer ou une compagnie d'assurance. Ce qui est intéressant dans le cas des marques aux États-Unis de façon générale, les marques aiment bien, de façon générale, pas que pour la cible des seniors, se comporter comme des marques citoyennes. Et donc elles vont faire des choses qui vont être, très citoyens pour essayer d'attraper finalement, de cibler finalement ces populations de seniors. Et donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont développer ce qu'on appelle des plateformes d'expérience positive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des plateformes d'expérience positive? Eh bien, c'est développer des plateformes sociales sur Internet, où là, on va leur permettre, finalement, de partager leurs propres expériences. C'est le cas de Pfizer, par exemple, qui va créer une plateforme web qui s'appelle Get Old. Get Old, c'est comment, finalement, devenir âgé, comment gérer finalement cette étape de vie. Eh bien, c'est une plateforme dans laquelle il y a plein de contenus qui sont sur le vieillissement, sur le vivre mieux, avec finalement des personnes qui vont pouvoir venir y partager des vidéos, des textes sur la manière dont ils ont, eux, passé cette étape du vieillissement, et tout ceci de façon très décomplexée. Et j'aime bien reprendre la phrase qui est en haut là, ici, qui était sur leur site internet, « Have a fear of getting old », c'est en gros, de façon assez directe, est-ce que vous avez peur de vieillir? Eh bien, ce que dit Pfizer, c'est vous n'êtes pas tout seul. Donc, effectivement, rappelez aux gens que vieillir, ce n'est pas quelque chose d'unique. Vous n'êtes pas tout seul. Tout le monde aujourd'hui a peur. Mais il faut combattre cette idée. Passez plutôt votre temps à apprécier cette période. Et donc, ce site, il est dédié à positiver. Alors, c'est vrai, c'est très américain, la notion de positivisme. Mais après tout, il n'y a pas de raison que nous ne nous en inspirions pas ici. Eh bien, il y a plein de cas comme ça où on a accompli finalement cette étape positive de vie. Donc pour le laboratoire Pfizer, c'est tout bénéfice, on va dire, puisque eux, ça leur permet de se construire effectivement des liens avec cette population-là, et bien évidemment de développer un marketing ciblé, puisque c'est quand même, in fine, l'objectif. Ce qui est important de rajouter aussi, c'est que souvent,
rapidement, Madame Nassir, parce qu'on est en train de dépasser.
Et puis après, l'autre cas, c'est effectivement le cas d'une compagnie d'assurance qui va apprendre là, partager les expériences sur ce moment clé qui est le passage à la retraite. En quoi finalement, donc là, ils vont inviter les personnes qui passent à la retraite, comment finalement ils vivaient cette fameuse journée de passage à la retraite. Donc c'était le Day One Stories. Venez nous raconter cette histoire de passage à la retraite. Ce qui est intéressant de dire, c'est que aux États-Unis, les seniors vont beaucoup sur Internet, vont beaucoup dans les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est en train de se développer aussi chez nous en France. Donc les marques, il ne faut pas hésiter à utiliser les médias digitaux pour communiquer auprès de cette cible. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, madame. Vous avez remarqué qu'on a des intervenants passionnants. Donc on dépasse un tout petit peu notre temps, mais on va essayer de passer un tout petit peu la vitesse supérieure. Donc là, on a été aux États-Unis, on monte un peu vers le nord, on va passer la frontière canadienne, on va aller voir nos cousins québécois avec Michael Carré de Medialis qui va nous raconter un peu ce qu'il a vu là-bas. Voilà.
J'interviens à la fois en tant qu'expert de Medialis, qui est spécialiste de ce marché de la silver economy, notamment tout ce qui est innovation et évaluation des innovations sur ce marché technologique en particulier, et également parce que j'ai eu la chance il y a quelques années de remporter un prix de l'Office franco-québécois pour l'entrepreneuriat social. Et donc j'ai eu des partenaires avec ce pays qui sont toujours d'actualité. Vous allez voir, mes slides sont assez riches de textes, donc n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez que je vous les communique, que je vous les transmette après. Tout d'abord, quelques données chiffrées. Population du Canada, 35 millions d'habitants, un PIB moyen par habitant qui est très proche de celui français, tout ça sur un territoire très très vaste. Et au niveau des plus de 65 ans, il représente 15% de la population totale aujourd'hui et on prévoit 25% dès 2030. Donc une évolution, très forte. Un autre chiffre qui me paraît important d'emblée, le taux d'équipement de la population canadienne en téléassistance n'est que de 1%. J'y reviens après. Le graphique suivant, à mon sens, parle de lui-même. Il s'agit des dépenses annuelles de santé publique par tranche d'âge. Et on note l'explosion un peu habituelle, certes, à partir de 75 ans de ces dépenses, mais là, la tendance est encore plus marquée que dans d'autres pays, tels que le nôtre. Alors, il y a différents points que j'ai envie de noter sur le marché de la santé au Canada, mais je n'ai pas le temps. Un exemple simplement, les prestations paramédicales libérales sont beaucoup plus valorisées qu'en France. Typiquement, l'ergothérapie, pour les personnes âgées en France, c'est très peu financé ou pas du tout. Là-bas, ça l'est de manière systématique. Il y a deux tendances clés que je veux vous faire remonter aujourd'hui. La première, c'est que dans ce pays, il y a une réelle sensibilité à l'aide aux aidants et à l'intergénérationnel. J'en veux pour preuve deux exemples. Tout ce qui est programme d'activité physique adaptée, alors on a vu au Japon, c'est un peu différent, mais l'idée est peut-être la même, la philosophie est peut-être la même, des programmes qui existent depuis plus de 10 ans, qui sont parfois internationaux. On a des programmes, par exemple, entre la Chine et le Canada. Et l'autre initiative que je cite dans ce contexte, c'est Baluchon Alzheimer, c'est assez connu, un service d'aide pour le répit et l'accompagnement des familles qui ont un proche Alzheimer, ça peut durer jusqu'à 2 semaines. Et c'est une initiative qui est souvent mise en avant par nos ministres actuellement, qui est facilement transposable en France. L'autre tendance importante que j'ai notée, c'est sur la recherche et développement, qui, je trouve, est beaucoup plus pluridisciplinaire et beaucoup mieux cofinancée que chez nous. Notamment, la recherche met l'accent sur la prévention, quand chez nous, on va plutôt être sur la détection. Elle met l'accent sur la qualité de vie, le concept de vieillissement actif en bonne santé. Je rejoins la notion de positivisme qu'on a vu tout à l'heure. Alors, c'est le Canada, c'est pas loin de l'Amérique, mais effectivement. On va travailler sur les champs sociologiques et psychologiques, pas que technologiques. Et on va pas hésiter à aller sur le champ des troubles cognitifs sévères, quand on peut être un peu frileux chez nous, parfois au niveau de la recherche. Deux exemples, l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement sain, une étude qui va durer 20 ans et qui, par exemple, aborde la thématique de l'équilibre et de la mobilité, qui est, je trouve, une façon positive de travailler sur le concept de chute. L'autre exemple, l'exemple numéro 2, c'est une grille d'évaluation de la douleur des personnes Alzheimer. On sait qu'elles ont du mal à exprimer leur douleur, voire qu'elles en sont incapables. Vous voyez, ils vont sur des sujets où on est encore assez prudent ou frileux en France aujourd'hui. Après, je voulais noter que les équipes sont interdisciplinaires, qu'elles sont souvent financées par des financements publics-privés, et en particulier, les fondations jouent un rôle très important dans le financement de la recherche dans ce pays, sur le sujet du médico-social en particulier. Bon, attention cependant à ce que les solutions ne soient pas trop intrusives. Quand on va là-bas, on peut voir des habitats intelligents pour la santé avec des détecteurs d'ouverture de portes, de frigos, de tiroirs. Il y a même des appareils capables de détecter le pourcentage de temps passé par quelqu'un dans les zones sombres de son appartement ou de sa maison et d'en déduire automatiquement un risque de dépression ou autre. Culturellement, ça serait difficile à accepter en France aujourd'hui. Alors, la téléassistance, c'est la technologie la plus déployée aujourd'hui pour le public des seniors en France. Donc j'ai voulu regarder ce qu'il en était au Canada. Globalement, je vous ai dit tout à l'heure, le chiffre 1%, c'est très très faible par rapport à ce qu'on retrouve même en France, et pourtant nous-mêmes, on n'est pas du tout le meilleur pays européen en taux d'équipement. Alors, est-ce que le Canada est un pays retardataire? Notamment parce que quand on regarde le marché, on voit que les solutions diffusées sont surtout des solutions, entre guillemets, low cost, moins de 20 euros par mois, avec un faible contenu technologique. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que le Canada est aussi un pays où il y a beaucoup d'expérimentations et même déjà des produits sur le marché dans le domaine de la e-santé et de la télémédecine. Donc finalement, on se demande si par hasard, le Canada n'aurait pas plutôt sauté, entre guillemets, l'étape de la téléassistance pour déjà aller sur la télémédecine. J'en donne pour preuve deux exemples de projets parmi d'autres. MDAON, qui travaille sur l'usage des solutions de télésanté mobile pour les patients diabétiques. Et il est très intéressant ce projet parce qu'il aborde d'emblée les thématiques sanitaires et médico-sociales. Là aussi, ce qui est très rare en France. On a une séparation une frontière opaque entre les deux univers en France. L'autre exemple, c'est My Home Health Program. C'est une vaste étude clinique sur une province entière. Là aussi, on va beaucoup plus loin que les évaluations qu'on peut mener en France habituellement. Et c'est centré sur un produit de monitoring à distance conçu par General Electric. Et vous allez voir, on est à la fois sur la téléconsultation, il y a un accès ouvert aux aidants qui proposent même de l'éducation thérapeutique de manière systématique. Et d'emblée, ils savent que le produit ne doit pas être livré seul. Le produit est couplé à un service, en l'occurrence d'assistant médical virtuel. On trouve même déjà sur le marché, on commence à trouver cette année même des solutions de télétraitement, donc qui vont au-delà de la télémédecine qui se limite en général au diagnostic. Là, sur la photo, vous avez un kiné qui fait une séance de ils appellent ça téléréadaptation, mais en fait, c'est de la rééducation auprès d'une patiente qu'on voit sur la photo. Je note souvent en France la tendance actuelle qui est de passer d'une téléassistance classique avec un dispositif manuel, médaillon, montre ou autre, qui déclenche l'alerte quand on a un problème auprès d'un plateau. Et on voit l'évolution vers une téléassistance automatisée que j'aime bien appeler 2.0. Il est intéressant de noter, c'est pour ça que j'en parle, que Linker Service, qui est un des pionniers français de cette télévigilance un peu automatique, n'a pas rencontré aujourd'hui, on peut le dire, son marché en France, mais par contre trouve son marché au Canada et en particulier au Québec. Et pour terminer, je voulais dire qu'en fait, il n'y a pas que les industriels français qui s'exportent au Québec. On a également le cluster Silver Valley, qui est assez présent aujourd'hui, présidé par Jérôme Arnault, qui est à notre table, qui a signé en octobre dernier une convention de partenariat avec son homologue québécois, Sage Innovation, pour qu'ensemble, on soit plus compétitif sur ce marché, la Silver Economy. J'ai fait une slide de résumé que vous pourrez consulter après avec le support. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez après.
Merci beaucoup, monsieur. Alors, on prend de nouveau l'avion. Là, on va à l'autre bout de la Terre. On va aller faire un tour en Nouvelle-Zélande et en Australie avec Jean-Paul Treyer, qui aime bien ces pays-là. Plein de choses à nous raconter également. Puis ensuite, on terminera notre tour du monde par l'Europe avec la Scandinavie, Jérôme Arnault, et l'Allemagne avec Philippe Mougin. Puis ensuite, quelques questions-réponses. Et vous aurez, en fin de rencontre, bien sûr, un petit peu de temps, mesdames et messieurs, pour poser vos questions. On continue notre marathon. Monsieur Treyer, à vous.
Alors, 19 000 km en bas, hein, 24 heures d'avion et 10 heures de décalage, effectivement, pour aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, très vite. Juste rappeler que ça fait une petite vingtaine d'années l'an prochain que, effectivement, je rencontre des entreprises et qui toutes disent « Formidable, qu'est-ce que c'est intéressant, oh, ce marché des seniors, c'est génial !» et qui ne font rien Donc c'est toujours aussi enthousiasmant. Mais heureusement, il y a Doro qui a fait quelque chose. Voilà. Et, mais à part ça, ça reste toujours aussi troublant pour moi de voir autant d'entreprises qui disent qu'est-ce que c'est intéressant ce marché et qui continuent à s'intéresser à la ménagère de moins de 50 ans. Va comprendre. Mais bon, les choses bougent, la preuve, le succès de ce salon. Alors, il y a un slogan qui est un slogan qui a été créé par l'Association américaine des retraités, la célèbre RPP, et qui dit « Life before 50 is nothing but a warm-up ». La vie avant 50 ans n'est rien d'autre qu'un échauffement. Et c'est à la fois un message d'espoir pour les vieux dinosaures qui ont franchi le cap des 50 ans ici dans la salle et sur la tribune, c'est qu'en fait ça ne fait que commencer et vous n'êtes pas prêts de nous voir disparaître, hein, parce que l'échauffement ayant été terminé, c'est maintenant que ça commence. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on voit un dynamisme, une pêche chez les seniors dans ces contrées, mais aussi un positivisme sans doute anglo-saxon dans les entreprises qui fait qu'elles ont envie d'être très volontaristes à l'égard de cette cible, et le vieillissement existe. Moi, je me rappelle quand j'ai lancé Senior Agency il y a 10 ans à Sydney, à la fin de la conférence introductive avec mon associé Chris Cormack, eh bien, nous avons gagné 5 clients. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui peut jamais arriver en France. En France, vous faites des conférences, les mecs disent super intéressant, vous gagnez pas un client. En une conférence en Australie, 5 clients, l'agence était rentable le lendemain matin. Donc vous voyez, c'est un truc où on se dit, on a quand même dans ces pays une envie d'ouverture d'esprit à l'égard des cibles seniors qui est assez exceptionnelle. Alors l'Australie, très vite, je ne vais pas vous emmerder avec des tas de chiffres. J'ai la chance d'avoir mon fils Amaury qui est maintenant citoyen australien et qui vit à Sydney et qui est un fou furieux. Tous les matins, se lève à 5h30 et va faire du surf, du sport, etc. Et puis avant de repartir à son bureau, il fait des photos. Et donc je lui ai dit, tiens, envoie-moi quelques photos de tes seniors. Voilà. Et vous avez avec ce monsieur et ces messieurs qui sont en train de se baigner dans la célèbre piscine de Bondi Beach qui s'appelle l'Iceberg, vous avez exactement ce qui est frappant là-bas, c'est que dès l'aurore, vous avez des centaines de seniors qui sont en train de faire du sport, qui se marrent. Une fois qu'ils ont fait du sport, ils s'attablent et ils restent là jusqu'à 10h30 au café avec leurs copains. Et voilà, et la vie est formidable. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un paradis. Quand même l'Australie pour beaucoup de gens, notamment pour les seniors, parce que ben voilà, c'est simple, c'est positif, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agression, enfin bon, donc on comprend qu'on est un petit peu loin. Et j'aime bien ce film parce que je trouve, s'il marche, ça va être le mystère du transfert Apple PC, s'il marche parce qu'il exprime bien, voilà une pub qu'on fait sur les écrans en Australie, vous voyez, ça donne la pêche. Bon, ok, on a tout dit, hein, tout a été dit sur les statistiques. Évidemment, le vieillissement explose partout. Les plus de 65 ans vont doubler, les plus de 85 ans vont tripler, etc. C'est un raz-de-marée, c'est le raz-de-marée du vieillissement. Rien de spécial, tout ça, on l'a dit. Sauf que ça va finir par poser des problèmes à un moment donné. Et c'est juste ce que je voulais mettre en exergue, c'est qu'effectivement l'Australie est un pays qui a connu une croissance, qui connaît encore une croissance assez exceptionnelle, 22 ans sans chômage, sans problème, etc. Mais effectivement il y a quelques nuages qui sont en train d'arriver et il y a la même problématique que partout du financement de cette catégorie de gens qui n'en finissent plus de vieillir et qui vont effectivement peser sur les comptes sociaux, sur les comptes médicaux. Et puis la problématique de la retraite, système de retraite qui n'avait pas été réformé depuis 1908 en Australie. Et figurez-vous que l'Australie va être le premier pays au monde à appliquer la retraite à 70 ans. Vous dites ça à des socialistes français ici molles par le feu. Quand vous racontez ça en Australie, il y a des petits débats, mais pas très violents. Et ils disent, bah oui, de toute façon, il n'y a pas le choix, évidemment, il faut le faire. Et donc l'Australie va être le record du monde de décalage de, effectivement, l'âge de la retraite à 70 ans. Alors, je pense qu'ici, on est un pays où il y a des gens qui disent qu'il faut garder l'âge de la retraite à 60 ans. Ça me fait doucement marrer, ou plutôt ça m'inquiète profondément, mais enfin ça, c'est un autre sujet. Dynamique à l'anglo-saxonne des initiatives, de la volonté, une envie d'y aller. Évidemment, comme partout dans le monde, les gens n'ont pas envie de vieillir. Comme partout dans le monde, ils ont un problème avec le mot senior. Comme partout dans le monde, comme Gérard Caron l'a très bien dit, ils ne veulent pas être mis de côté et désignés comme étant les vieux, ça va de soi. Mais disons qu'on est mille fois plus simple dans la problématique et dans l'approche qu'on ne peut l'être sur le vieux continent. La Nouvelle-Zélande, tout petit pays, magnifique, si vous n'y avez jamais été, allez-y, on a la chance d'être à Auckland depuis 10 ans. La Suisse de l'autre côté, mais moins chiant que les Suisses quand même. Et anglo-saxon, positif, drôle et tout. Il pleut à peu près autant qu'en Suisse, hein, par contre, hein, la mauvaise nouvelle. Hein. 4,4 millions d'habitants, et vous voyez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les seniors sont de plus en plus nombreux, c'est eux qui concentrent les revenus, évidemment, et donc on va avoir la même croissance de l'âge, donc des maisons de retraite, des complexes qui s'ouvrent partout, des produits dans tous les sens pour combler les retraites. C'est vrai que nous, Français, qui avons des systèmes de retraite qui peuvent paraître comme étant, par certains côtés, absolument fantastiques, par d'autres côtés, absolument terrifiants, on le sait bien sur le plan des financements, évidemment, ne sont pas du tout la norme là-bas, et donc là-bas, les gens doivent cotiser, doivent investir, doivent épargner, et donc tout ça est un marché considérable, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, vous voyez, j'ai voulu être court, ne pas vous ennuyer avec des centaines de chiffres. Je vous rappelle que la vie avant 50 ans est juste un échauffement, et je vais vous montrer ce que je considère personnellement comme, et j'espère que ça va marcher, le plus beau film de senior marketing de tous les temps. C'est un film que j'aurais aimé faire, mais malheureusement c'est pas nous. C'est un film australien et qui va illustrer, je pense, si ça marche, de façon magnifique, et là j'ai besoin de son, ce qu'est le fait de dire que la vie avant 50 ans n'est qu'un échauffement. Et
merci beaucoup, Monsieur Traeger. Voilà. C'est chaud, hein, l'Australie comme continent, vous avez remarqué. Alors on va revenir dans la vieille Europe maintenant pour terminer ce tour d'horizon. On va aller faire un tour, il fait plus frais là-haut, hein, c'est en Scandinavie avec Jérôme Arnaud qui est PDG de Doro et qui est surtout le président également de la Silver Valley. Il va nous dire un petit peu ce qui se passe là-haut au pays du froid. Hein. Voilà, puis après on terminera par l'Allemagne, plus près de nous.
Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et merci d'avoir ranimé la salle avec ces petites vidéos. Alors en effet, je suis le président de Doro. Doro est une société suédoise et qui est présente dans beaucoup des pays qu'on vient de citer. Mais je vais me concentrer sur la Scandinavie. Alors en Scandinavie, la première chose à comprendre par rapport aux seniors, c'est que l'État est important. Il gère à peu près tout ce qui traite de ça. Et donc là, je fais une petite blague. Vous voyez, imaginez un Français qui prendrait sa retraite et un cadre méritant et son patron lui dit, ou le responsable des ressources humaines, pour votre retraite, on va essayer de vous trouver la nationalité suédoise. Ça sera la meilleure façon de vous garantir une bonne retraite. Passons à des choses plus sérieuses. En Suède, donc, on a vu différents pourcentages. Là, on est à 19% de la population qui a plus de 65 ans. Ça fait environ 4,7 millions. Et les pourcentages varient légèrement. Les plus jeunes sont les Norvégiens. Et Suède et Danemark, et Finlande sont à peu près à 18-19%. L'Islande est assez jeune. C'est pas un pays où on veut forcément prendre sa retraite. Alors je suis ravi de parler de la Suède. Vous savez que le roi et la reine de Suède sont actuellement en France pour une visite d'État, donc je me permettais de le souligner et je vais donc faire un petit focus sur la Suède avant de parler des autres pays que sont le Danemark et la Finlande et la Norvège. Alors quelques chiffres. L'investissement dans l'assistance aux personnes âgées en Suède est 5 fois plus élevé que la moyenne européenne. Et les dépenses en soins longue durée, essentiellement vis-à-vis des seniors, si on prend la moyenne européenne qui est de 1,6% du PIB, sont de 3,6% en Suède et 2,1% en Finlande, 2,36% en Norvège et 2,38%. Donc vous voyez un effort particulièrement important en Suède. La Suède a commencé par faire des institutions, des maisons de retraite médicalisées, etc. et a entamé dans les années 90, un changement pour plutôt aider les personnes qui restaient à domicile. Donc en 1983, vous aviez simplement 39 communes, ce qui sont des genres de communautés d'agglomération. Il y en a 290 en Suède, et qui offraient un service d'infirmière 24/24, 7 jours sur 7. En 95, ils étaient déjà 269, et aujourd'hui, toutes les communes offrent ce service d'une infirmière qui vient à domicile En cas de besoin, bien sûr, il faut être éligible. On parlait de téléassistant tout à l'heure. La Suède a environ 200 000 personnes qui sont prises en charge. Ça fait environ 2,2% de la population. La plupart des communes sous-traitent la téléassistance à des acteurs privés et le font à travers un contrat cadre qui s'appelle le SKL, qui permet donc de définir de manière nationale les conditions dans lesquelles une téléassistance se fait ou se rend pour une commune. Ce qui fait que l'offre est beaucoup plus harmonisée. Vous avez trois acteurs qui sont en concurrence pour offrir ce service, mais il n'y a pas des essais ou des spécifications qui sont différentes dans chacune des localités, et ça permet d'avoir des économies d'échelle et des rapidités de déploiement. Je vous cite également quelques éléments de droit qui sont anecdotiques. Je n'ai pas du tout la prétention de vous faire un panégyrique complet. Mais sachez que dans le Sweden Social Services Act, il a été amendé en 2012 pour donner le droit de continuer, on va dire, à vivre ensemble. C'est-à-dire que si un couple âgé a vécu pas mal d'années ensemble, si une des personnes a besoin d'être mis en institution, il y a donc obligation de fournir également une place à son conjoint ou partenaire afin qu'ils puissent continuer leur vie de la même façon, que cette mise en institution ne soit pas la cause d'une séparation. Également, un autre point qui est débattu en France, c'est le congé dépendance ou pour ce qu'ils appellent les informal carers ou les aidants familiaux, on va dire. Le gouvernement suédois reconnaît, ou la loi suédoise reconnaît l'importance des aidants familiaux et aménager des droits les concernant, notamment un congé donc depuis 2010, on va dire, qui est le dernier amendement de ce Care Leave Act, qui offre 100 jours d'absence payés à 80% de son salaire pour pouvoir s'occuper d'une phase terminale ou de dépendance aiguë d'un senior de sa famille. Ce graphe qui est assez intéressant, c'est là la statistique de combien, quel pourcentage des seniors vivent en home care ou nursing home, donc dans des institutions plutôt qu'à la maison. Et on voit que malgré le revirement dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même une grande proportion, enfin les home care sont des services à la maison, mais les nursing home sont plus importants que dans les autres pays d'Europe. Ça c'était en 2007 et donc ça a un petit peu évolué. Maintenant je dirais que la barre bleue est plus importante. Ça, c'est pour la partie plutôt liée au vieillissement, aux soins à domicile. Je vais passer maintenant sur une partie que je connais davantage. C'est celui des technologies de la communication, essentiellement la téléphonie. Et là, vous voyez que vous avez sur le graphe les chiffres de 2013 et dans le texte en suédois les chiffres de 2014 que je vous ai résumés en haut. C'est-à-dire que 97% des 66 à 75 ans ont un mobile. C'est important aussi de segmenter les classes d'âge. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs générations dans les seniors. Et donc on se rend compte que, 97% ont un mobile, simplement 38% ont un smartphone en 2014, alors qu'ils n'étaient que 22% à en avoir un en 2013. Donc une évolution rapide, notamment grâce à nous, de ce segment-là. Et 81% des plus de 75 ans ont un mobile, mais vous voyez que l'année dernière, il n'y en avait que 7% qui avaient un smartphone. Et ceux qui ont un téléphone, il y en a la moitié d'entre eux qui l'ont depuis plus de 3 ans, donc le taux de renouvellement est beaucoup plus lent que le marché classique. L'accès à Internet en mobilité, là aussi, vous voyez toujours ces courbes qui s'effondrent dès qu'on dépasse la barre des 66 ans, avec néanmoins une amélioration. Là, les différentes couleurs sont sur le fait d'avoir accès, ça c'est la courbe verte, oui ou non, de s'en servir de temps en temps, le bleu ciel, et de s'en servir de manière quotidienne, c'est la courbe en bleu plus foncé. Vous voyez la dégradation, et donc là c'est notre mission d'augmenter ce taux de pénétration d'usage d'Internet en mobilité, comme à la maison. Vous voyez que les courbes sont moins drastiquement à la baisse, mais néanmoins s'effondrent toujours à partir de ce fameux seuil des 75 ans. Pareil pour l'accès à la tablette, il y a également, et là ce sont des chiffres de 2014, un effondrement assez important, avec à la fois une opportunité de marché, c'est ce qu'on appelle la silver economy. Petite page promotionnelle, donc Doro est forcément le leader incontesté dans ce domaine, tant dans les téléphones mobiles que les smartphones, ainsi que des tablettes et PC. Petit focus sur la Finlande. La Finlande a une spécificité, c'est à la fois son enseignement universitaire et son mode de financement, dans lequel l'État ainsi que des venture capital sont très actifs dans le domaine de la silver economy. Ça a donné lieu à des sociétés qui n'auraient pas vu le jour sans ce genre de financement, qui savent être très patients, c'est environ 10 ans, et qui savent également se lancer dans des brevets et lancer des innovations technologiques. Là, je cite deux entreprises, Vivago, qui est présente en France, et sur ce salon, je pense, ainsi que Navigil, qui est une société qui permet de faire du tracking à partir d'une montre GPS. Un petit point rapide sur la Norvège. La Norvège a également un réseau d'innovation à partir des besoins dans le domaine du healthcare, quelque chose qui est assez similaire à Silver Valley. Et donc ça dépend du ministère de la Santé. Et son objectif, c'est d'améliorer les services en innovant, et notamment dans l'axe du Future Housing pour Elderly, donc de vraiment améliorer l'habitat pour les personnes âgées. Enfin, comme ça a été dit dans d'autres pays, la prévoyance par une activité physique auprès des personnes âgées est un axe aussi très développé, notamment avec des associations genre 60+, présentes à Oslo. Mais il y a également beaucoup d'associations qui proposent des promenades dans le parc, si je puis dire, ou en forêt, ou dans les montagnes. Voilà, quelques exemples que je voulais vous citer et partager avec vous aujourd'hui. Et merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Arnaud. On termine notre tour du monde avec l'Allemagne, nos voisins allemands, Philippe Mougin, qui a attendu sagement son tour, directeur des affaires publiques et du développement régional chez Bayer Healthcare, et qui va nous emmener chez Angela.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous parlez de l'Allemagne, vous rappelez quelques chiffres rapidement sur l'Allemagne, donc 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, les plus de 60 ans, c'est 20%. Dans 30 ans, c'est facile à retenir, ce sera 30%. Et ça représentera 30 millions d'Allemands qui auront plus de 60 ans. Quand on parle d'économie, le gouvernement allemand estime que la silver economy d'ici 2020, et 2020 c'est vraiment demain, représentera 60 milliards d'euros en Allemagne et générera 1,5 million d'emplois. 60 millions d'euros en Allemagne, ça veut dire que cela rajoutera au PIB, à la croissance du PIB allemand, 2 points de plus sur la croissance du PIB allemand. Donc on a des enjeux qui sont extrêmement forts. Et si je prends le chômage, aujourd'hui on doit être à peu près à 6 malgré la remontée au mois de septembre. On va être à 6 en moyenne cette année. Ça ramènerait le taux de chômage avec ces 1,5 million d'emplois nouveaux à 2% de taux de chômage en Allemagne. Donc il y a de gros enjeux. Moi je suis là pour vous parler de santé. Alors la santé c'est toujours compliqué quand il s'agit de s'occuper des seniors. Mais c'est quasiment dans notre ADN. Puisque globalement, plus la population vieillit, plus elle est malade, et ça devient de plus en plus compliqué à prendre en charge. On a aussi entendu tout à l'heure que globalement, tout le monde trouvait ça intéressant de se préoccuper des silvers, mais que personne ne bougeait. Donc, partant de ce constat, Bayer Allemagne, et nous aujourd'hui en France depuis 4 ans, avons développé, c'est ce que je vais vous montrer là très brièvement, vous viendrez me voir sur le stand à l'entrée du salon, on a développé en fait une méthodologie qui permet finalement de faire converger l'ensemble des acteurs vers des problématiques d'amélioration. Puisque globalement, il faut faire converger les patients, il faut faire converger les professionnels de santé, médecins, paramédicaux, les médico-sociaux, il faut faire converger les industriels, les communes, les autorités de santé. Et quand on parle de convergence, ça veut dire aller dans un même but, c'est rapprocher des idées. Et on a trouvé intéressant, finalement, pour rapprocher les idées, d'essayer de partager une même vision des enjeux, être extrêmement pragmatique pour permettre aux différents acteurs qui souhaitent s'impliquer de pouvoir travailler sur quelque chose qui semble pertinent et avec une compréhension partagée de l'enjeu. Alors, je vais vous poser une question. Vous avez sans doute tous entendu parler des parcours de soins, parcours de santé. Est-ce que vous en avez déjà vu un? Et là où est le problème, c'est que pour comprendre comment améliorer la prise en charge des patients, il faut comprendre ce qu'est un parcours, il faut pouvoir analyser un parcours, il faut pouvoir identifier des zones critiques ou des zones de rupture dans un parcours, et chacune des zones critiques ou de rupture devient, pour ceux qui souhaiteraient s'investir, devient une opportunité d'innovation, d'amélioration de services, d'amélioration d'outils, au service de l'amélioration de la prise en charge des patients seniors dans ce cas-là, mais ça peut être aussi pour l'ensemble des patients. Alors, je vais vous montrer ce qu'est un parcours. Voilà. Donc, de façon théorique, un parcours, c'est ça. Un parcours, c'est différentes zones de la vie d'un patient. On démarre tout à gauche, c'est toute la vie où on est encore en bonne santé. Donc, c'est la partie prévention. On arrive sur les soins de premier recours, c'est votre médecin traitant.
on arrive vers l'hospitalisation, des centres spécialisés, on sort vers des services de soins et de rééducation, on retourne au domicile et finalement on est pris en charge par les structures médico-sociales. Voilà ce qu'est un parcours. Une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à imaginer de travailler ensemble sur ce qu'on appelle ça. Ce sont des zones de rupture dans un parcours. Et chaque zone de rupture dans un parcours doit être améliorée. Ici, vous avez des exemples possibles d'amélioration. Et l'objectif, c'est finalement d'innover. Quand on a parfaitement compris ce qu'est une zone de rupture ou une zone critique dans un parcours, on peut intelligemment travailler ensemble, parce qu'on a besoin d'être nombreux et de réunir l'ensemble des acteurs, de travailler sur des zones d'amélioration. Je vais rentrer de façon pratique. Là, c'est un résultat, hein, on en a d'autres. Là, c'est le parcours d'un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral. Donc, on est souvent chez les seniors. Vous avez en haut de la diapositive la façon dont il rentre dans le système de santé. Et en bas, vous avez son retour au domicile. Chaque bulle, c'est une zone de rupture dans le parcours. Chaque bulle est parfaitement décrite par l'ensemble des acteurs, patients, professionnels, autorités. Et décrire finalement ce à quoi est due la rupture. Donc à partir de ces analyses, on peut aisément imaginer des solutions d'amélioration. Globalement, Bayer, nous, on a décidé d'améliorer la zone de rupture 12. Globalement, c'est l'accompagnement des patients en sortie d'unités neurovasculaires, donc les fameuses UNV qui prennent en charge en urgence l'AVC. Et là, il y avait une vraie déficience. C'est un service, un nouveau métier. C'est de la coordination de soins en sortie d'UNV avec une infirmière, puisque c'est ce qu'on a aujourd'hui trouvé de plus pertinent. Et l'infirmière rappelle les patients, se déplace au domicile, est disponible pour répondre aux questions des patients, s'assure finalement de l'observance des traitements, s'assure du respect des facteurs de risque, des règles hygiéno-diététiques, et renvoie une information vers l'ensemble des professionnels concernés, qu'ils soient paramédicaux, médico-sociaux, médecins ou pharmaciens. On a imaginé aussi sur cette base de travail, on a imaginé un nouveau métier, qu'on appelle un case manager. Je vous parlerai après plus de techniques. Case manager, on a un pilote aujourd'hui parce qu'il faut valider l'hypothèse. Le case manager, c'est au CHU de Nantes. L'idée de ce case manager, c'est de prendre en charge ces patients seniors qui cumulent les maladies, qui débutent une maladie d'Alzheimer et qui sont à l'hôpital de façon répétée ou qui restent à l'hôpital sur des durées extrêmement longue. Ça a un coût, c'est 17% du coût de l'hospitalisation aujourd'hui en France, donc c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et ces patients, aujourd'hui, le case manager trouve une solution pour le ramener vers des institutions hors hôpital ou au domicile quand c'est faisable, parce que ce n'est pas toujours faisable. On a également, sur ces bases-là, travaillé avec des partenaires en Allemagne. En France, on les cherche, hein. Mais on y travaille. On a travaillé sur des solutions de télésurveillance à distance, donc des outils de surveillance de paramètres physiologiques à distance, la prise de pouls, la prise de la pression artérielle, des outils aussi qui permettent finalement d'analyser de façon quotidienne les différentes postures, assises, couchées ou debout des patients selon leur pathologie. On a aujourd'hui également en Allemagne des outils qui permettent de signaler une chute chez une personne âgée et qui, en cas de chute et sans réponse de la part de la personne âgée, va envoyer soit un aidant, soit une infirmière au domicile pour s'assurer que le patient va toujours bien. Donc aujourd'hui, voilà, tout est ouvert. Ce que je voulais vous dire, c'est il faut de la méthode, analyser des situations, comprendre des enjeux, et à partir de là, on peut intelligemment décider d'innover. Pour en arriver à ça, une équation qui est une équation d'efficience pour un système de santé, faire des économies, une solution d'économie, c'est-à-dire de développement industriel pour des partenaires industriels, mais regardez, la formule magique est parfois un tout petit peu compliquée. Merci à vous.
Merci beaucoup, madame, messieurs. Avant de vous donner la parole dans cette salle, mesdames et messieurs, voilà, on éteint le micro. On va quand même poser quelques questions à nos intervenants pour leur permettre, sous forme de questions-réponses ping-pong assez rapides, de résumer un peu tout ce qu'ils nous ont dit. Moi, la première question que je voudrais vous poser, madame, messieurs, c'est, nous, les Français, on en est où? On est comment par rapport à l'Australie, au Canada, à la Suède? On est en avance ou on est en retard? Et je voudrais que vous nous disiez, en même temps que la réponse à cette question, vous me disiez un petit peu, si on avait quelque chose à leur emprunter dans chacun de ces pays, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on importe en France? Quel exemple on suit? Quelle innovation on essaie de mettre en œuvre dans notre pays? On commence par vous, monsieur Mougin. Alors, j'ai vu, hein, vous, c'est des ruptures un petit peu, mais c'est là qu'il faut travailler, qu'il y a beaucoup de travail?
En fait, en France, on a beaucoup de gens, comme vous le disiez, qui disent c'est génial, c'est génial. Il faut qu'on commence à bouger en France. Donc je pense qu'en apportant un peu de méthode pour accompagner ceux qui veulent bouger, c'est l'idée. Et si je devais ramener un modèle allemand, c'est l'exemple finalement de regroupement, hein, ce que fait la Silver Valley ou la Silver Economy, le regroupement de multiples acteurs qui ensemble vont investir pour améliorer ou apporter des innovations. Donc je pense qu'il faut qu'on bouge, mais qu'on se regroupe pour bouger, et on va beaucoup plus vite ensemble que seul.
Donc il nous manque de la méthode et il nous manque du regroupement, si je résume. Jean-Paul Treguière.
Je pense qu'on n'est pas plus
alors, en approchez-vous du micro peut-être un petit peu plus.
Que ça. Je pense que Silver Valley, Dieu sait que Montebourg est un mec qui m'agace, mais je trouve que pour le coup, c'était plutôt une bonne idée de fédérer comme ça les énergies, les entreprises autour d'un espèce de label. Donc je trouve que reconnaissons à nos ennemis que quand ils font des bonnes idées, il faut avouer que c'est une bonne idée. Donc je l'avoue, je trouve ça très bien. Je pense que le problème qu'on a en France, c'est toujours un rapport avec l'argent. Les anglo-saxons vous disent, les seigneurs, on doit s'y intéresser parce que it's where the money is, c'est là où il y a l'argent. Nous, dès qu'on dit ça, tout de suite, il y a des mecs, ah, quelle horreur, mon Dieu, les seigneurs, mais tout de suite, c'est de l'argent, etc. Je pense qu'il faut être relax, quoi. Ils ont plus de patrimoine, plus d'argent pour un certain nombre d'entre eux, donc il y a de l'argent, donc il faut s'intéresser aussi à eux pour cette raison. Pas que pour cette raison, hein, qu'on ne me fasse pas dire et qu'on ne me caricature pas, mais les entreprises devraient s'y intéresser parce que c'est un marché énorme et elles se battent toutes pour conquérir les jeunes et elles oublient que sous leur pif, il y a un potentiel gigantesque. Donc je pense qu'on est de ce point de vue un peu en retard.
Et alors qu'est-ce qu'on rapporte d'Australie
Pareil, le positivisme,
un état d'esprit,
l'évidence,
finalement.
L'état d'esprit. Il faut y aller, qu'est-ce qu'on attend, etc. Voilà, c'est tout. Bon. En France, on crée des comités pour en parler. Eux, ils font. Voilà, c'est
d'accord.
Toujours la même histoire.
On agit, on ne parle plus chez nous, il faut agir. Ouais. Monsieur Caron, bon, alors on a vu pour les animaux de compagnie, il y a des tas de trucs qu'on n'a pas, ça d'accord, pour les animaux des seniors. Mais en dehors de ça, vous avez trouvé que le Japon était bien plus prêt que nous à affronter.
Non, par rapport au Japon, même, sachant qu'ils ont de l'avance au niveau du phénomène démographique, donc ils sont plutôt plus en avance que nous là-dessus sur ce sujet. Mais moi, je mettrais plutôt l'accent sur un aspect que tu as évoqué au fond, hein, qui serait que de considérer, mais c'est culturel ça, hein, de considérer que les vieux, les anciens, etc., ils ont aussi leur place dans leur société. Or, ils sont dans les sociétés, dans les entreprises, dans la vie sociale, etc., ils sont toujours marginalisés. Au Japon, ils sont considérés comme comme une sorte de réserve, de sagesse, de recul. Il y a des trésors vivants, hein, parmi les anciens, etc., ce qui n'existe pas du tout dans notre culture. Et là, on se prive. Longtemps, on s'est privé aussi d'un capital qui était la femme, et maintenant, on se prive d'un capital que sont les seniors. Et ça, c'est une révolution culturelle aussi. J'en ai bien conscience.
Madame Gnassia, votre voisine, nous a parlé aussi du Japon et des États-Unis, avec des Américains qui sont un peu en avance sur nous, notamment pour les plateformes, pour l'utilisation des TIC. Des
titres. Alors effectivement, ils sont, comme le disait Monsieur Treguière, décomplexés aux États-Unis parce que c'est un business, un vrai marché. En France, ce qu'on peut noter, c'est que les grands acteurs, les grandes entreprises françaises, celles qui font du marketing, celles qui vont investir en communication, parce que par la communication, on va dédramatiser cette population, on va la décloisonner, et bien aujourd'hui, elle n'y va pas. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plus des petits acteurs, alors beaucoup d'acteurs institutionnels, des petites start-up, d'ailleurs des start-up qui font des trucs formidables pour les seniors, qui font des choses ultra positives. Tous les exemples que j'ai vus au Japon, moi je les ai vus aussi dans des micro-start-up françaises qui vont faire travailler les mamies pour qu'elles vont tricoter des vêtements, ou alors cette start-up française qui fait nos grand-mères ont du talent, c'est une espèce de fast-food de grand-mères qui vont faire un fast-food à la française, sympathique, mais fait par une jeune start-up française, fait par des jeunes mecs qui ont monté cette boîte. Et en fait, aujourd'hui, les grands groupes français n'y vont pas. Et en fait, le jour où on aura des grandes marques françaises qui disent « je m'intéresse aux seniors », je leur offre des services, des gammes précises, avec une façon très décomplexée et en faisant gaffe dans la manière d'en parler. Charal, par exemple, est allé, sauf qu'ils ont appelé leur produit « Petit Appétit ».
Ah oui.
Ce qui est pas forcément,
c'est un peu négatif comme message.
Très positif. Oui. Positivons. Je rejoins le même point.
Monsieur Arnaud, dans le Nord.
Alors, je vais d'abord vous répondre sur la comparaison avec la France, plutôt en prenant ma casquette de Silver Valley, qui me donne un observatoire assez pertinent, je pense, par rapport à cette question. J'aurais une tendance à dire qu'on est tout à fait fiers de notre État. Et c'est vrai qu'on voit d'autres choses à l'étranger. Néanmoins, on ne voit pas d'acteurs globaux, internationaux, qui sont en train de nous inonder en France. On voit plutôt, j'étais encore avec une délégation française au Japon de 13 entreprises, elles ont toutes intéressé les distributeurs japonais avec leurs innovations. Donc on n'a vraiment pas à s'inquiéter, mais c'est toujours bon de comprendre ce qui se passe ailleurs. Et je pense que même dans un pays qui a 20 ans d'avance en problématique des pyramides des âges, les offres françaises sont pertinentes. On a parlé tout à l'heure aussi du problème d'organisation de l'État ou de la communauté et de la vie autour du senior. Là, il y a beaucoup d'innovations à faire. C'est regrouper le social et le médical, harmoniser les standards, etc., pour que des solutions uniques en France, quitte à ce qu'elles soient en concurrence, puissent être développées plus facilement. Alors qu'en France, on a là, par contre, encore parfois, pour des raisons généralement de morcelage du territoire et des différentes vues politiques, des situations où l'on décide des choses très différentes d'un conseil général à un autre, voire d'une communauté d'agglomération à une autre. Et ça freine le développement du marché. Donc on a deux dynamiques à créer, et c'est de ça dont il faut s'inspirer en Scandinavie, harmoniser les marchés pour qu'ils se développent plus vite, parce que notre intérêt, c'est que ces marchés se développent, pour que les acteurs français puissent se développer en France et franchir le pas de l'international derrière, parce que dans la plupart de ces marchés-là, pour être un gagnant, il faut être global.
Monsieur Caron, le Canadien, qu'est-ce que vous nous avez rapporté? Ils sont en avance, ils sont en retard? Et qu'est-ce qu'on leur prend? Monsieur Carré, pardon.
Je voyais trois points.
Excusez-moi, vous êtes tous en ligne.
Qui pouvaient effectivement être importés en France avec intérêt. Tout d'abord, je vous ai parlé de prévention. Donc c'est cette politique, effectivement, qui pense à la prévention et pas seulement à la détection des problèmes ou à la correction des problèmes une fois qu'ils sont survenus. Donc c'est un changement de mentalité. Je trouve ça quand même pas anodin que la seule structure publique qui finance pas de projets sur les seniors, c'est l'INPES, l'Institut de prévention sanitaire. Il y a plein de projets qu'on pourrait financer avec intérêt, expérimenter des choses innovantes, et pour l'instant, c'est pas le cas. Deuxièmement, ma société travaille depuis 8 ans maintenant avec l'APHP, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ça serait quand même très très bien si ces process complexes étaient simplifiés, si c'était moins difficile de collaborer entre public et privé. Au Canada, au Québec, c'est beaucoup beaucoup plus simple. Et je vous ai parlé de cofinancement. Ils arrivent à faire des cofinancements à 5 acteurs, public, privé. Il y a même des cliniques et des CHU qui travaillent ensemble. Ça pose pas de problème. Chez nous, ça apparaît insurmontable encore aujourd'hui. Puis dernier point, mais qui n'est pas propre au Canada, c'est sur la partie normalisation, labellisation. Je regrette effectivement, enfin le CNR et autres sont positionnés là-dessus, mais c'est quand même très très lent. Quand on apprend que l'AFNOR commence un groupe de travail de préfiguration d'une norme en silver economy qui pourrait arriver dans 5 ans, j'ai l'impression qu'on a besoin plus rapidement d'outils sur le marché.
Monsieur Levédé, le regard du Crédoc là-dessus, grosso modo, on est comment nous les Français? On est bon ou pas bon?
Je trouve qu'on a fait on a passé une étape dans les deux dernières années avec la mise en place justement de cette filière. Là, on a fait un gros, gros pas en avant. J'ai envie de dire que démographiquement, les pays qui sont en avance, c'est ceux qui ont justement une démographie encore plus vieillissante. C'est ce qui nous attend. Donc de toute façon, on va prendre le train parce qu'on n'aura pas le choix. Démographiquement, ils seront plus nombreux. Puis le deuxième élément, c'est que, quitte à plomber un peu plus, l'économie actuellement ne va pas être très très bonne sur les années à venir. On a une toute faible relance. Et cette faible relance, ça ne va pas permettre aux plus jeunes d'avoir un pouvoir d'achat qui va croître. Donc là où il y aura de l'argent à aller chercher, encore une fois, on parle de business ici, eh bien c'est sur ces populations-là. Donc si les entreprises veulent avoir des croissances importantes ou conséquentes, c'est sur ces publics qu'il faut aller.
Alors, messieurs, on va refaire en sens inverse. Je vais revenir vers vous, monsieur, je vous en prie, mais allez-y.
Très brièvement, je voulais dire, business, oui, mais c'est aussi le mieux vieillir, parce que c'est pas que mercantile, je pense, la silver economy.
Alors, on refait la tribune en sens inverse. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon vous, maintenant? Alors, je sais que c'est une question qui imposerait peut-être des réponses assez longues, dans notre manière d'entreprendre et de communiquer. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez vu et entendu? Quels conseils vous pouvez donner aux entrepreneurs existants ou aux futurs entrepreneurs, dans la manière de communiquer vis-à-vis des seniors, dans la manière d'entreprendre, qu'est-ce qui pêche chez nous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux?
Alors, bon, très, très rapidement, oublier qu'on parle à des vieux ou à des seniors et que c'est parce qu'ils ont cet âge-là qu'on doit leur proposer ces produits-là. Il faut être positif, en effet, proposer des innovations d'usage plus que des innovations technologiques. Hein, c'est l'usage qui va primer. Et puis, deuxième élément, leur donner envie d'avoir ces produits-là, notamment à travers deux éléments qui, l'un est l'intergénération. On acquiert des technologies ou on acquiert des produits ou des services parce que ça nous permet d'être en relation avec ses petits-enfants et avec ses enfants. Et le transfert d'expérience, on a des gens qui sont âgés, qui ont une vie derrière eux, qui ont plein d'expériences à apporter. Et si on leur dit, bah, grâce à nos produits, nos services, vous allez pouvoir transmettre votre expérience, là, vous avez des éléments forts de communication pour inciter à acheter vos produits et vos services.
Monsieur Carré, et non pas Monsieur Caron, qui viendra après.
Alors, j'aurais deux conseils pour les entrepreneurs. Premièrement, ne pas confondre marché à fort potentiel et marché important aujourd'hui. L'inertie du marché, elle est lente, et l'erreur que beaucoup de start-up font en France aujourd'hui, c'est de surestimer le marché immédiat. Et il faut donc avoir les reins solides, avoir ce que j'appelle des offres alimentaires en attendant que, que la stabilité économique et la pérennité de l'entreprise soient atteintes. Et deuxièmement, là c'est plus sur les industriels, ne pas généraliser hâtivement le cas de sa grand-mère, de sa tante ou autre, parce que c'est jamais effectivement c'est jamais à l'image du marché. Et nous en évaluation, on a des surprises quand même assez fortes parfois. Bon, donc voilà, soyez prudents et faites des évaluations statistiques, c'est important.
Monsieur Arnaud, grâce à la Silver Valley, on commence à bien évoluer en France, mais qu'est-ce que vous pouvez proposer?
Alors, en communication, le problème numéro un, c'est qu'on ne communique pas assez. Et la raison pour laquelle on ne communique pas assez, c'est que la plupart des entreprises n'ont pas la taille pour le faire parce que le marché est à son début. Et les comptes de résultats font que chaque entreprise peut faire que ce qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'on essaye de fédérer, de créer un message de communication. Le deuxième point que je voudrais dire également, c'est que la plupart des gens qui travaillent par rapport à la Silver Economy ne sont pas forcément tous des seniors et donc ont une image du senior qui est celle qu'a un plus jeune d'un senior qui, donc, on a souvent le cas d'un enfant qui voit ses grands-parents et voir ses parents, toi tu es un super vieux, tu devais exister du temps des dinosaures. Bref, une vision forcément déviée par rapport à ce que le senior comment le senior se voit lui-même. Et donc il y a tout un travail d'apprentissage de comment est-ce que le senior se voit pour pouvoir mieux lui parler. Donc ça c'est pour ça qu'il faut généralement faire appel à des experts en communication comme nous avons autour de la table. Et le dernier point peut-être par rapport à un problème qui n'est qu'une partie du marché de la silver économique qu'on a touché tout à l'heure, qui est la dépendance. Je pense que là, moi je fais toujours l'analogie de la ceinture de sécurité dans les voitures. Il y a une époque, on ne voulait pas la mettre, on mettait des pinces à linge pour ne pas être gêné avec la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, parce qu'on a fait des campagnes importantes, c'est devenu un réflexe, tout le monde accepte de la mettre, il n'y a plus de problème. Je pense qu'aujourd'hui, on sous-estime le risque de sinistre d'avoir un proche dépendant. Et une plus grande prise en compte dans les mentalités du fait qu'autour de soi, dans quelques années, on aura probablement une personne, statistique, et malheureusement ça risque d'arriver, qui souffrira de ce problème-là. Et donc de travailler sur la prévoyance, l'aménagement du domicile, d'améliorer l'efficacité des services pour cette personne, c'est des choses qui ne marcheront que mieux que s'il y a une prise en compte globale de cette problématique.
Le regard d'une dame, Madame Gnassia. Qu'est-ce que vous préconisez?
C'est pas que d'une dame.
Et d'une spécialiste du Japon et des États-Unis, on l'a entendu.
Non, pas forcément Japon-États-Unis. C'est en fait tout simplement, mais je rejoins un peu ce qui a été dit à l'instant, c'est considérer que les seniors, c'est une cible marketing en soi, que d'abord, il y a plusieurs cibles à l'intérieur de cette cible-là, 50 ans et plus, et tout simplement faire de l'évangélisation dans les entreprises françaises, enfin dans les acteurs économiques français, les marketeurs. Effectivement, il y a des gens jeunes, il y a des gens moins jeunes, et leur faire comprendre que ces populations-là, elles ont un marketing spécifique, et donc c'est tout cet apprentissage qu'il faut effectivement faire. Et moi j'ai une expérience très récente dans un grand groupe cosmétique français, je dirais pas qui, il y avait des gens plus jeunes, des gens plus âgés, et on s'apercevait qu'il y avait effectivement des vraies interrogations chez les plus jeunes sur qui était cette cible-là, et avec surtout aussi notamment sur les usages digitaux, internet, etc., malgré les chiffres qui existent, une perception qu'ils n'y connaissent rien dans les nouvelles techno, alors que ce n'est pas vrai, alors que c'est qu'il y a énormément de trucs à faire. Donc c'est une cible marketing, il faut la travailler, nous on est là pour ça, on développe nos cahiers de tendances pour faire ce travail d'évangélisation dans les sociétés.
Monsieur Caron.
Moi, j'ai envie de passer mon tour parce que Franck a dit à peu près ce que je voulais dire, donc je ne vais pas le répéter, mais c'est vrai, s'adresser à eux comme des gens, des vrais citoyens, etc., et non pas comme des vieux ou des marginaux, et puis à leur offrir des produits qui leur donnent envie. Alors moi, j'ajoute peut-être en tant que designer aussi, enfin, des produits qui sont faciles à ouvrir, faciles à refermer, etc., oui. Et qui soient beaux, oui, qui soient beaux, bien sûr. Bon, enfin, ça, c'est valable pour tout le monde aussi, oui. Enfin.
Pas des produits spécifiquement vieux. Il faut vraiment voilà, qu'on ait envie, il faut donner envie,
bien entendu,
c'est ce que vous êtes en train de
nous dire. Moi, j'ai envie de rajouter que la notion d'esthétisme en France, parce qu'on est quand même un pays de culture esthétique, est extrêmement importante. Et j'ai vu des cas de choses, ou des cannes, vous savez, les cannes, etc., ou même les bars, là, qu'on... De soutien, etc., développé par une entreprise de designers aux États-Unis qui ont fait des choses absolument magnifiques. Et je trouve qu'en France, c'est dommage qu'on ne les trouve pas. Voilà.
Alors, ça existe, dit monsieur. On va vous donner la parole dans quelques instants, monsieur, rassurez-vous. Jean-Paul Tréguer, vous nous avez dit que vous auriez aimé monsieur Tréguer.
Trois remarques. Premièrement, bravo aux organisateurs de ce salon, parce qu'il n'y a pas dans beaucoup de pays des salons de ce genre. Je trouve que Alain Bosetti, qui a eu cette idée une fois de plus, montre qu'il a identifié les choses avant les autres. Deuxième chose, quand je suis arrivé tout à l'heure, c'était bourré de jeunes qui étaient dans les allées. Je trouve ça fantastique. Enfin, moi, je me disais, bon, allez, je vais faire une conférence pour faire plaisir à mon camarade Alain. Ça va être rempli de petits vieux dans la salle, grincheux, etc. Eh ben non.
Il y a aussi des jeunes dans la salle, hein, monsieur.
C'est
Tréguer,
des petits vieux qui ont du tonus. D'ailleurs, monsieur tout à l'heure va intervenir. C'est des petits jeunes qui sont là en train de s'intéresser à tout. C'est formidable. C'est-à-dire c'est un signe exceptionnel. Tout ce qui a été dit, et je peux pas mieux dire, on a un problème, c'est que quand on est dans le marketing, où qu'on soit dans le monde, on n'est intéressé que par une seule cible, la cible des jeunes. Parce qu'on veut grandir avec sa marque, on veut avoir une marque à la mode, on veut que les consommateurs évoluent avec, etc. Et tout ce qui dépasse l'âge fatidique, je vais vous dire, dans le marketing, vraiment aujourd'hui, c'est plus de 35. C'est-à-dire quand vous dites à des gens de marketing, on va cibler les plus de 35 en télé, ils commencent à vous regarder en disant « Ah, ils sont vieux, les plus de 35 ». Donc rendez compte des mentalités face auxquelles on se bat aujourd'hui. Donc quand vous dites qu'il faut faire une cible, une campagne sur les plus de 60, c'est à peine si les mecs ne partent pas en courant en se disant « Oh, de Dieu, on va faire des trucs pour les couches pour les incontinents, les dentiers, etc. » Donc on a un problème de mentalité des gens de marketing, de publicité, qui est énorme et qui n'a pas beaucoup évolué. Donc toutes les initiatives comme ce salon, comme la Silver Valley, comme cette conférence, comme des trublions qui viennent montrer des films de pub où les mecs se marrent, s'amusent, continuent à séduire des nanas, etc., bah c'est ça qui va faire changer l'envie de se dire bah tiens, finalement, les petits vieux, c'est pas si dégueulasse que ça, c'est une cible intéressante, et un jour, moi aussi, je serai un petit vieux. D'ailleurs, moi, je suis pas si loin que ça, puisque je vais avoir 60 ans en janvier, donc vous imaginez devenir un vieux dinosaure de 60 ans à partir de janvier.
Bon, bon anniversaire avec un peu d'avance, hein. Monsieur Mougin, vous, qu'est-ce que vous nous conseillez à partir de l'Allemagne dans les manières d'entreprendre, de communiquer? Ils sont plus doués que nous, d'après ce que vous avez vu? Ils sont...
Oui, non, moi je vais revenir en France finalement pour conclure. On parlait de santé. Je pense qu'il faut, pour la prise en charge des seniors par le système, il faut tout réinventer. Aujourd'hui, il faut décloisonner le milieu sanitaire et le médico-social. Il faut vraiment tout créer. Et quand on pense aujourd'hui aux enjeux de santé, c'est-à-dire ramener les patients au domicile, c'est-à-dire les sortir d'un système sanitaire et les ramener au domicile, on ne sait pas faire. Et avec les seniors, on sait encore moins faire. Donc il y a beaucoup d'opportunités économiques, mais également il y a une énorme opportunité pour chacun d'entre nous, finalement, de mieux vivre quand on sera dans cette situation-là. Moi, je n'aurai que 50 ans l'année prochaine, mais je sens que ça approche. Donc je m'accompagne.
Mesdames et messieurs, il y a deux micros. Monsieur, en priorité, on vous a parlé. Il y a des cannes sympas qui donnent envie de marcher avec une canne en France. C'est ce que vous allez nous dire.
Non, je voulais dire, moi je m'occupe de l'habitat pour les personnes âgées et dans le Nord-Pas-de-Calais. Je voudrais dire que nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, peut-être en réponse à Monsieur Tréguer, nous sommes très optimistes. La deuxième chose que je voulais dire, j'ai beaucoup entendu parler de seniors, mais pas beaucoup de vieux. C'est-à-dire, nous occupons essentiellement de personnes pour les maintenir à domicile, donc de plus de 75 ans. Les exemples qui ont été pris pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis ou le Japon me paraissent être dans la tranche d'âge avant. Et donc, ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment ça se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Japon, pour les personnes les plus âgées, qui, est-ce qu'il y a des systèmes équivalents à l'APA? Est-ce qu'il y a des systèmes de téléassistance? Est-ce qu'il y a des systèmes, effectivement, qui permettent le maintien à domicile des personnes âgées sans être obligées de les conduire vers des EHPAD?
Alors, très vite, donc en faveur de ces très vieux.
Un mot de ma connaissance, mais qui n'est pas universel. Mais malheureusement, c'est comme partout ailleurs. Sauf que se rajoute un problème de plus, c'est que, comme vous le savez, dans ces pays, on va dire, mentalité anglo-saxonne, on n'a pas les systèmes de protection, effectivement, sociale et médicale extraordinaires que nous avons en France et en Europe. Et donc, en gros, si tu as de l'argent, tu vas bien pouvoir vieillir, enfin bien pouvoir. Je ne sais pas si quand on est Alzheimer, on peut bien pouvoir vieillir, mais tu vas mieux pouvoir vieillir que si tu n'as pas de pognon du tout, parce que si tu n'as pas de pognon du tout, tu vas dépendre totalement des aides de l'État strictement, et ce n'est pas top, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, mais il y a peut-être
Monsieur Arnaud, Europe du Nord, Scandinavie, est-ce que là, on a quand même une politique sociale, de protection sociale, d'accompagnement jusqu'au grand âge, qui est quand même assez développée?
Oui, mais je pense que ça ne faisait pas partie des pays que... Enfin, là, je pense que j'ai couvert le sujet en disant que c'était couvert, et ce n'est pas une APA, mais c'est une prise en charge directe par l'État en permanence.
C'est le monde anglo-saxon. Au Japon, tout va bien.
On peut peut-être citer l'Allemagne.
Oui, l'Allemagne, M. Mougin.
Où il y a quand même aussi un fonctionnement de... Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est le canal de distribution des solutions. C'est-à-dire qu'en France, on a une tendance à lier l'accès aux solutions par celui qui les finance. L'APA étant... d'une façon un peu compensée, mais sinon en Allemagne, je crois, si mes informations sont correctes, c'est que vous prenez la solution que vous préférez et vous êtes remboursé en fonction d'un tarif fixé par l'État. Et donc ça ouvre, ça donne plus de liberté et d'énergie dans la distribution des solutions, et ensuite chacun prend en fonction de ses moyens du reste à charge qu'il peut financer lui-même et ses envies.
Autre question ou réaction? Bon, voilà, donc un lieu à visiter, la Cité du Design, Madame Nassia.
J'ai été un peu provocatrice pour dire qu'en France, on a effectivement beaucoup de talents. Moi, j'ai repéré dans mon cahier de tendance des formidables innovations développées par des acteurs français. Le seul truc qui est difficile... Enfin, en France, on a plein d'idées, mais par contre, on a parfois une difficulté à les valoriser, les faire connaître, c'est tout. Après, c'est effectivement des questions budgétaires, etc. C'est tout ce que je voulais dire.
Autre question, réaction, mesdames et messieurs. On prend encore quelques minutes, n'hésitez pas. Il y a deux micros qui vous attendent. Monsieur, au premier rang, on va s'approcher de vous. Voilà, mademoiselle vous apporte un micro. Merci, monsieur.
Alors, merci déjà pour toutes les informations que vous nous avez données. Vous avez beaucoup parlé des pays dits développés, hein, et on a vaguement pas parlé de la Chine, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, qui sont aussi des régions du monde où la croissance de ces marchés, mais le vieillissement des populations va aussi être très important. Et donc, quand vous disiez que ce sont des marchés qui nécessitent d'avoir une envergure globale, vous avez tout à fait raison, mais alors, est-ce que on prend en compte que le paysage que vous nous avez montré, ou est-ce qu'on doit avoir une vision encore plus large? Et dans ce cas-là, avec la diversité culturelle que ça comprend, comment, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise française ou européenne, comment on peut s'y prendre? Et est-ce que, par exemple, la Silver Valley est un relais pour mieux comprendre ces différences culturelles et les différentes approches qu'on peut avoir?
Son président va vous répondre, Monsieur Arnaud.
Premièrement, d'abord, la liste des pays a été choisie par les organisateurs, mais je suis ravi de compléter. Le taux des personnes de plus de 65 ans en Chine et généralement en Asie est beaucoup plus faible que dans la vieille Europe. Elle porte bien son nom. On est plutôt dans les taux de 6 à 8%. C'est pareil pour l'Amérique du Sud et c'est encore pire pour l'Afrique, notamment du fait d'un taux de mortalité assez élevé. Ayant dit ceci, néanmoins, il est vrai que les pays asiatiques arrivent à un moment où, même si la proportion n'est pas aussi importante, où ça fait quand même des vagues de seniors qui débarquent, avec une modification sensible de la relation culturelle à ses parents, parce qu'il y a eu en même temps toute une migration des jeunes vers les grandes villes, et qui donc ont une tendance à laisser leurs parents à la campagne pour tous ceux qui ont migré de la campagne vers la ville. Donc il y a aussi là une révolution qui entraîne des besoins spécifiques en silver economy. Des marchés s'organisent et bien évidemment Silver Valley en coopération avec Ubi France qui aide l'ensemble de nos membres à aller à l'export regarde ce marché. On a par exemple le groupe Colisée Patrimoine qui est un acteur de construction de résidences services qui est très actif sur ces marchés là et qui emmène avec lui différents acteurs qui peuvent rajouter des services au sein des maisons qu'il bâtit en collaboration avec un groupe chinois local. Amérique du Sud, il y a plus de problèmes à la fois économiques et de proportion de population. Enfin, il y a des solutions, il y a des marchés qui se développent là aussi. La priorité est un peu moindre. Et l'Afrique, c'est encore plus faible de fait de cette proportion. Il y a juste, mais il y a des solutions en Maghreb et Afrique du Sud qui se développent.
Merci. Encore une dernière question peut-être, mesdames et messieurs.
Merci beaucoup. Lionel Ricou, je préside une organisation qui vient de se créer, le Cercle Silver Economy à Genève en Suisse. Et j'avais une question concernant le marché suisse. Donc je ne vais pas forcément l'adresser à M. Trégère.
Oui, on va éviter l'incident diplomatique.
Bon, j'ai lu l'ouvrage avec grand intérêt d'ailleurs, mais ma question en fait s'adresse aux différents intervenants ou à ceux qui ont une expérience par rapport au marché suisse. J'aimerais savoir si l'un ou l'autre d'entre vous a eu l'occasion de l'aborder et si ce n'est pas le cas, pourquoi vous ne seriez pas intéressé à ce marché-là? Merci.
Alors la Suisse.
On a un acteur assez connu qui est la Fondation Suisse pour les Téléthèses, qui vient du monde du handicap et qui s'est généralisé un petit peu à la gérontologie. C'est un acteur qui est assez présent dans les réunions et conférences françaises. Donc, enfin, il y a des liens de partenariat en recherche. Il n'y a pas encore effectivement de lien sur la partie marché et commercialisation. Mais enfin, nos clients, on en a plein qui sont intéressés par ce marché. Hein.
Donc on aime aussi la Suisse, monsieur, il faut vous rassurer. Ça pourrait presque être un mot de la fin. Pour terminer, messieurs, madame, pardon, et messieurs, je vais vous demander peut-être une phrase ou un verbe pour conclure votre message essentiel, votre conseil pratique pour les entrepreneurs désireux de réussir leur implantation, leur ancrage dans la silver economy par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez décrit des pays étrangers. Ce serait quoi? Un verbe, une phrase, un message? C'est dur, hein, comme question de conclusion. Allez, monsieur Caron.
J'ai envie de répondre simplement, y aller.
Il faut oser, c'est ce qu'on dit. Oser, madame.
Apprendre de tous les autres.
Oser, apprendre de tous les autres. Monsieur Arnaud.
C'est maintenant.
C'est maintenant. Ah oui, c'est, d'accord. Ça, vous avez volé, vous l'avez emprunté. Monsieur Caron. Carré, pardon. Carré, oh là là.
Courage, il y a du potentiel, mais il faut être patient.
Soyez patient. Monsieur Lehuédé, vous avez un message aussi, Crédoc.
Innover sur l'usage.
L'usage, oui, on en a parlé à la première conférence. Jean-Paul Tréguer.
Quand on construit sur les jeunes, on construit sur du sable. Quand on construit sur les seniors, on construit sur du granit.
Waouh, c'est beau ça, hein, monsieur Mougin. Ah bah si, il faut que vous disiez quelque chose, je sais que ça...
En fait, de la méthode et se regrouper.
De la méthode et se regrouper. Madame, messieurs, merci beaucoup pour toutes ces exposés, pour vos interventions.